Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, un podcast de qualité présenté par LAM UA.
Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Studio 404. Nous sommes à Biarritz. Est-ce que ça va, Biarritz? Ah là là. On est bien accueillis à Biarritz. Hein, on est bien accueillis. Nous sommes dans les locaux de la Surf Rider Foundation. Si vous écoutez ce podcast, nous sommes à Biarritz. Si vous le suivez en direct en stream, nous sommes à Biarritz aussi. En tout cas, et nous avons répondu à l'invitation de Rémi, de toute son équipe, pour venir vous parler de numérique, de technologie, et évidemment d'écologie, impact positif, impact négatif. Plein de belles choses. On aura des chroniques. On aura peut-être de la mauvaise foi, je ne sais pas.
Ça m'étonnerait.
Je ne suis pas sûr.
C'est pas le style de la maison.
Le public est là, évidemment, pour écouter, réagir, insulter. Pareil, on n'est pas sûr. On verra en tout cas. Et évidemment, toute l'équipe est sur place. Ghislain est à la réalisation. Sam est à la prod et au jingle aujourd'hui.
Incroyable.
Énormément de tracks, ça va être fait en live. Et évidemment, j'ai mes quatre compères. Comment allez-vous? Comment ça va, Sylvain?
Ça va très très bien. Je suis arrivé hier à Biarritz. J'ai profité du soleil que vous n'avez pas aujourd'hui.
C'est vrai.
Et ouais. Et je vous ai gardé un petit échantillon. Je vous en donnerai tout à l'heure.
Très bien. Ça va, Daz?
Bah, ça va super. Donc, on est arrivé ce matin et du coup, le soleil est déjà parti. C'était très cool. Merci d'émuler le climat anglais parce que ça suffisait pas de l'avoir chez toi. Tu l'as ramené ici. Merci beaucoup, Sylvain.
Daz qui a déjà commencé à râler comme un vrai francilien, bien sûr. Mélissa, comment ça va?
Ça va très bien. Je vois un océan de gens.
Oh là là, on commence dans les métaphores. Est-ce qu'on fera un petit bingo métaphore aussi, océan, plastique, bouteille, tout ça?
Très bien.
Comment ça va, mon cher Fibre, pardon?
Ça va pas mal.
Ouais.
Je suis pas super écolo, donc je suis pas super à l'aise. Ouais. Non, mais c'est pas pratique l'écologie, on est d'accord.
Alors.
Ça commence bien.
Alors.
10 secondes d'émission.
Donc voilà. La mauvaise foi, alors.
Non, mais ce qui est important, non, mais il est de bonne foi. Il est de bonne foi, puisqu'il dit qu'il n'est pas écolo.
Oui, c'est vrai.
Ce qui est important, c'est que dans le public, il y a des auditeurs de 404, il y a aussi des gens qui connaissent la Surf Rider Foundation, il y a des vrais Jedi qui font les deux en même temps, mais pour les gens qui ne nous connaissent pas, on est plutôt spécialisés en numérique, on a une légère conscience écologique de type veille plutôt qu'action, mais justement, on va essayer de changer ça. Et évidemment, il y a tous les profils, le pire des profils étant incarné par Fibrotic, qui est un peu
forcément
le seigneur 6 de l'écologie.
On sait quoi faire, mais on ne le fait pas forcément. Voilà.
C'est bien défini.
Voilà, merci.
Moi, je fais des choses.
Parfait. On va changer ça aujourd'hui.
On va changer ça aujourd'hui avec quatre chroniques. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec la première. Et c'est Mélissa qui va entrer en jeu.
Plus un éco-geste, nous allons vérifier si vous sauvez vraiment la planète.
Oh, quel beau jingle. Bravo. On peut applaudir. Sam, incroyable des jingles faits en live. Et c'est parti, Mélissa.
Comment enchaîner
après ça ? Fact-checking des éco-gestes.
Alors, suivez-moi, ça va être long, mais ça va être bien. Tout a commencé avec cette phrase qui date d'avril 2018. Aujourd'hui, la pollution numérique produit autant de CO2 que toute l'industrie aérospatiale mondiale.
Oh, spectaculaire.
Je lis ça. J'étais soufflée. Alors, tout ce que nous faisons sur Internet, donc le numérique, émet des gaz à effet de serre autant que les avions, les fusées. Là, je me dis vraiment, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais jamais réalisé à quel point je tuais la planète avec tous mes petits Google Docs, dont cette chronique. Mais replaçons cette phrase dans son contexte. Elle est de Inès Leonarduzzi. Vous ne la connaissez pas, c'est normal.
Sinon, la connaît.
C'est la patronne de Digital for the Planet, qui n'est pas une ONG, mais bien un cabinet de consulting pour aider les entreprises à respecter la planète. Et donc, elle a tout intérêt à faire des super punchlines. Et il y a 2 ans, Inès Leonarduzzi, que vous ne connaissez toujours pas, c'était une consultante mode. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire en vous disant ça? C'est qu'au début, j'étais très sceptique. Je me dis, elle dit ce truc, c'est le green, c'est à la mode, donc elle balance des phrases, des punchlines comme ça pour dire, genre, vous devriez faire attention. Et en fait, je me dis, est-ce que vraiment on est en train de mener la planète à sa perte en envoyant des emails avec la Terre entière en copie? Alors j'ai cherché hier soir les ressources pour vérifier cette affirmation. J'étais vraiment bien partie, je me dis je vais y arriver. C'était, donc il était 21h et j'ai vite compris que j'allais enquêter sur un truc qui me prendrait environ 4 mois. Donc j'étais dans la merde. Mais on va enquêter ensemble parce que vous êtes tous très au fait de ces questions. Donc j'ai commencé par aller sur des blogs, j'ai pas trop compris, il y avait souvent beaucoup d'affirmations qui me disaient « Oh là là, faut arrêter d'envoyer des mails, faut arrêter d'envoyer des pièces jointes ». J'étais là « Ok, les mecs ». Et de proche en proche, j'ai fini par arriver sur le site de l'ADEME. L'ADEME, si vous ne connaissez pas, c'est l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. L'ADEME, c'est une institution française qui a été créée en 91 et qui vous donne plein de conseils. Donc c'est plein de PDF très lourds sur leur site qu'il faut télécharger.
Donc
ça demande vachement de serveurs et tout ça. C'est super. Et donc, je suis arrivée sur un guide qui s'appelle « La face cachée du numérique ». Là, je me suis dit « Ok, enfin, je vais avoir mes réponses ». Mais je vous lis un peu l'introduction pour vous mettre dans l'ambiance de qu'est-ce qu'on dit à l'ADEME. « Les outils numériques nous intéressent et nous séduisent. Amélioration des échanges, meilleur partage de l'information, communication instantanée, autant de nouvelles pratiques qui s'invitent dans notre vie quotidienne et notre travail. Mais ils ont aussi des impacts sur l'environnement. Consommation d'énergie, consommation de matières premières, pollution, production de déchets. » Ok, merci les mecs.
C'est vrai.
Mais j'étais pas allée plus loin avec ça. Là, je commence à avoir des chiffres. Continuez, restez avec moi, s'il vous plaît. Les émissions de gaz à effet de serre émises par le numérique, il y en a 28% dues aux infrastructures du réseau, 25% dues aux data centers, 40% de notre utilisation de l'Internet mobile et 47% dues à tous nos équipements. Donc tout ce que vous voyez sur la table, là, par exemple, 47%.
C'est plus de 100%, mais...
Quoi ? Ah ouais ? Je t'invite à fact-checker l'ADEME.
Ça commence bien.
Donc déjà,
bonjour l'ADEME.
Merci l'ADEME. Putain, je croyais que c'était vraiment un truc... J'ai peut-être mal recopié le PDF. Mais pourtant, j'ai vraiment fait copier-coller du PDF.
Donc c'est l'ADEME.
Mais qu'est-ce que j'essaye de prouver par là avec tous ces chiffres ? J'essaye de comprendre si tout ça va vraiment aider. Je reviens à Inès Leonarduzzi. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Elle a été partout dans la presse féminine au printemps. Et donc, on se retrouve à lire dans Elle... Les 7 lois de l'écologie digitale, selon Inès.
Ça sent les tablettes gravées.
Ouais, je vais vous lire, attention, c'est chaud. Alors, petit 1, avec un outil aidant à gérer la consommation d'espace et de mémoire, tu travailleras, par exemple, The Great Suspender qui met en veille les fenêtres qu'on n'utilise pas pour son navigateur, ou CleanFox pour trier et supprimer les spams. Ok. Un smartphone à petit écran, tu achèteras, car plus l'écran est grand, plus il consomme de métaux rares. Mieux, un Fairphone, tu te procureras, fabriqué à base de matériaux respectueux de l'environnement, il est recyclable. On verra plus tard. 3. Google, tu abandonneras. Une requête Google, c'est 5 grammes de CO2 émis dans l'atmosphère, selon elle. Pour protéger tes données, le moteur de recherche Quant, tu choisiras. Quel est le rapport avec l'environnement, je ne sais pas. Et pour aider à replanter les arbres, Ecosia, tu sélectionneras. 4. Tes notifications, tu désactiveras. En France, la moyenne d'applis installées est de 60 pour 30 utilisées par mois. Activer tes notifications, c'est faire tourner sa machine à laver toute la journée, même s'il n'y a rien à laver. 5. Okay. Laisser charger son téléphone toute la nuit, tu arrêteras. 1h30 environ suffit à recharger un smartphone. 6. Les plateformes collaboratives comme WhatsApp, Messenger ou Workplace, tu favoriseras car elles sont moins consommatrices d'énergie que les mails. Je lis un truc en tout petit, hein, c'est pour ça que je galère. 7. Tes mails non lus, tu supprimeras car même ceux qui attendent dans ta corbeille continuent à consommer de l'énergie à hauteur de 10 grammes de CO2 par an.
Donc. Il y a un taux de froncement de sourcils de DAS qui atteint les 83% pour l'instant. Ça monte doucement et ça monte de manière stable.
Là, je me suis dit, en fait, ces grandes règles-là, c'est ce que j'ai lu partout dans les guides de l'ADEME, enfin, sur tous les sites, en fait, qui disaient.
Ça vient pas d'elle, c'est un peu les sept.
Voilà,
les
c'est
sept
un peu les tendances. Elle a vraiment chopé toutes les tendances et donc elle a fait un petit guide. Après, elle a retranscrit ça plus ou moins de manière fiable. Donc si on prend point par point, là j'ai essayé, donc il était 21h hier soir, rappelez-vous. Donc sur la mise en veille par les fenêtres, par les fenêtres de vos onglets que vous fermez, j'ai vraiment pas trouvé des chiffres qui disaient combien d'économies ça faisait faire. En revanche, pour le petit écran, l'ADEME dit que effectivement, sur un ordinateur fixe, donc un plutôt grand écran, c'est 100 watts utilisés. Sur un ordinateur portable, c'est 20 watts et une tablette, c'est quelques watts et encore moins sur un téléphone. Après, on en discutait tout à l'heure, oui. Ça dépend de l'écran. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire ça ? Je ne sais pas. Quand ils vous disent d'abandonner Google pour préférer le moteur de recherche Ecosia. Ecosia, ils ne font pas d'économie d'énergie, ils plantent des arbres. En fait, ils prennent les bénéfices qu'ils tirent de l'activité du moteur de recherche pour planter des arbres. Donc, ils disent qu'ils ont planté 4 millions d'arbres. depuis 2009 qu'ils ont lancé leur truc.
Et le moteur de recherche d'Ecosia, c'est Bing, en fait.
Ouais.
Donc c'est le truc de Microsoft.
C'est ça. Donc pour moi, c'est plutôt du greenwashing, mais oui. Pourquoi pas. C'est juste que je voudrais bien visiter cette petite forêt, je ne sais pas où elles sont. Mais je n'avais pas le temps de vérifier, donc je suis sûre qu'on peut vérifier et les retrouver. Et donc là, on arrive dans le dur, parce que j'ai voulu chercher donc, combien ça consommait une requête web. Ils nous le disaient, mais je n'ai pas trouvé les mêmes chiffres qu'eux. Pour moi, j'ai trouvé 0,2 g de CO2. C'est vraiment le truc pour une recherche Google. Versus, par exemple, faire un tweet, c'est 0,02 g. Donc 10 fois moins.
Donc tu peux faire 10 tweets pour une recherche Google ?
Ouais, mais c'est toujours plus compliqué que ça. Et là, ils nous donnent le chiffre. En gros, si vous voulez un peu essayer de comprendre, parce que vraiment, j'essayais vraiment de comprendre quel était mon bilan carbone. C'est ça mon problème. J'étais là genre, qu'est-ce que je fais ? Et donc, les recherches Internet effectuées dans notre pays représentent 287 600 tonnes équivalent CO2, soit l'équivalent d'un trajet de 1,5 million de kilomètres en voiture. C'est beaucoup.
Oui.
Mais toujours, on ne comprend pas, quoi. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, à chaque fois, je lisais des phrases, je disais ça, je comprends pas ce que vous dites. Désactiver les notifications, effectivement, ça consomme beaucoup d'énergie, parce que beaucoup plus qu'avant, quand juste vous alliez chercher des infos, là, ça vous la push à chaque fois qu'il y en a une. Arrêter de laisser charger dans son téléphone. J'ai trouvé des trucs sur les États-Unis où ils disent, bah oui, ça vous fera économiser 100 $ d'économie par an si vous débranchez tout.
Oh, c'est beaucoup.
C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. WhatsApp et Messenger, j'ai pas compris pourquoi ça consommait moins d'énergie.
De la bande passante, que des mails. Par rapport à un mail. Ça paraît très flou comme tous ces conseils.
Quand on arrive au mail, donc le septième, oui. Suivement, on y arrive, vous inquiétez pas. Apparemment, donc un mail assez court, c'est 4 grammes de CO2. Un mail assez long, c'est 50 grammes de CO2.
Donc en fait, tu culpabilises, plus t'écris, plus tu culpabilises en fait.
C'est ça. Et alors ensuite, il y a les pièces jointes. Vraiment, la pièce jointe, c'est vraiment le truc. L'impact de l'envoi d'un mail dépend du poids des pièces jointes, du temps de stockage sur un serveur, mais aussi du nombre de destinataires. Multiplié par 10 le nombre de destinataires d'un mail, multiplie par 4 son impact. Donc les pièces jointes et le nombre de gens à qui vous envoyez tous ces trucs. Conserver 30 mails inutiles durant un an consommerait 222 watts-heure, soit l'équivalent d'une ampoule laissée allumée toute la journée.
C'est autant que ça ?
Ouais.
C'est gigantesque.
Mais c'est toujours selon l'ADEME. Hein. J'aimerais vraiment fact-checker tous ces chiffres parce que vraiment, ils vous en balancent comme ça dans tous les sens. Personne ne comprend rien.
C'est hyper alarmant. En tout cas, c'est hyper alarmant.
Bah, mais c'est ça.
C'est... Okay. On en parlera après.
J'arrive à Netflix, si vous voulez, encore du plus concernant.
Ah, ouais. Là,
Netflix,
ça nous concerne.
Mais c'est eux qui le disent. Hein. En 2014, ils disaient que c'est 300 grammes de CO2 par utilisateur par an. D'accord. Comparativement, une heure de télé, c'est 84 grammes de CO2.
Donc en fait, c'est l'équivalent en grammes de CO2.
Ouais.
Ok.
En fait, donc j'arrive à la fin de ma liste et donc j'étais complètement perdue.
Ouais.
Je pense que vous aussi. Mais j'essayais de comprendre si vraiment ça, si en changeant tout ça, si genre en arrêtant de streamer sur Netflix, en arrêtant d'envoyer des mails, j'allais vraiment essayer d'améliorer la planète et je me disais bah c'est un peu compliqué. Par exemple, si je veux vraiment calculer l'économie énergétique faite par la suppression de 10 mails, faut que je prenne en compte les différents prestataires, le fournisseur de mails, la localisation du serveur, est-ce que les serveurs sont refroidis, comment ils sont refroidis avec de l'énergie éolienne, le contenu des mails, est-ce que c'est du texte, est-ce qu'il y a des pièces jointes, est-ce qu'il y a des images, est-ce qu'il y a plein de gens mis en copie. Et tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de choses à calculer et je me disais, mais on va jamais y arriver. Surtout qu'en fait, il y avait un gros problème qui était souvent souligné en dessous de tous ces articles sur les éco-gestes numériques, c'est que le pire truc, en fait, au-delà de tout ce qu'on fait sur le numérique, c'est ça. Ce petit objet.
Que les auditeurs ne voient pas, mais qui est un ordinateur.
Qui est mon
portable.
Ordinateur, qui est un MacBook Air que j'ai depuis 6 ans. Mais en fait.
On en reparlera avec Daz.
Bientôt Daz. En fait, on recycle pas ces choses-là. Au bout de 3 ans, on les garde chez nous ou on les jette, mais on devrait pas les jeter. En fait, on devrait les faire reconditionner ou en tout cas qu'elles soient reconditionnables. Or, c'est énormément d'énergie de fabrication. Un ordinateur, c'est 200 kg de combustible fossile, 22 kg de produits chimiques et 1,5 tonne d'eau pour produire ça.
Ouais, donc c'est gigantesque.
Je sais pas comment l'eau est utilisée. Vraiment, j'arrive pas à voir.
C'est pire qu'un avocat.
C'est ça. Et en fait, l'ADEME, toujours, dit que faire durer nos équipements numériques constitue le geste le plus efficace pour diminuer l'impact. Passer de 2 ans à 4 ans d'usage pour une tablette ou un ordi, ça améliore de 50% son bilan environnemental. Donc, supprimons nos mails et gardons nos outils longtemps et reconditionnables. Et notre autre gros problème, c'est qu'en fait, on explose nos usages. C'est-à-dire qu'effectivement, on envoie des mails, mais on envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mails qu'avant. Et en fait, on va arriver à un moment où on aura une période de saturation et effectivement, ça va devenir des proportions qui vont être telles que vraiment, on va bien, bien niquer la planète. Donc là, c'est le moment où 404 propose ses solutions.
Ah.
Pour essayer
Pourquoi
de sauver la planète.
Les gens rigolent dans le public déjà d'avance. C'est toujours les propositions sur le 404 sont extrêmement sérieuses.
Parce que ce qu'on comprend avec tout ça et avec mon incompréhension face à cette tonne de chiffres, c'est qu'on est des gros flemmards et que je savais bien que quelque part je faisais des trucs mal en qui pingaient des data centers et que ça consommait vachement d'énergie, mais que je savais pas à quoi ça correspondait et je sais toujours pas à quoi ça correspond. Donc je me suis dit on est des gros flemmards, on va faire des trucs hyper
radicaux.
Voilà, radicaux. Pour nous aider. Imaginez, Gmail empêche mon père de m'envoyer chaque soir un gros PDF avec le journal.
Et je fais ça ton père.
Tous les soirs. Et diminue à chaque fois son espace de stockage s'il essaie de continuer. Là, je pense qu'il va arrêter. Imaginez Google Chrome me ferme automatiquement mes onglets non utilisés depuis 15 minutes.
C'est vrai.
Imaginez, votre ordinateur s'éteint au bout d'une minute d'inactivité.
Là, c'est le stress.
C'est un peu chaud. Imaginez, nous avons une quantité limitée de mails par jour. Ça, déterminé par une IA qui sait si ça met en danger notre activité qu'on puisse plus envoyer d'email quand même. Imaginez nos chargeurs sonnent de manière très stridente au bout d'une heure une fois que c'est fini de charger.
Ce serait beau.
Imaginez si je ne peux pas revendre cet ordinateur tant que je ne l'ai pas fait complètement recycler. Imaginez si on paye une taxe si on ne recycle pas nos batteries. Imaginez si vous ne pouvez pas télécharger une nouvelle série Netflix tant que vous n'avez pas fini la précédente.
Ah, c'est marrant parce que là tout le monde a fait. Ah, c'est...
Même chose
ça, c'est
pour
chiant.
Les jeux vidéo, si vous ne pouvez pas télécharger un nouveau jeu tant que vous n'avez pas fini le précédent.
Alors, là, Steam, il n'y aurait plus rien dans les bibliothèques Steam.
Imaginez vous acheter un iPhone 5000 euros et vous le faites rembourser 1000 euros par an pour vous inciter à le garder 10 ans.
Eh ouais.
Ou 10 000 euros, on peut aller loin comme ça. En fait, je me dis, il faut vraiment qu'on essaye de trouver un peu l'équivalent de. Des poubelles jaunes qui sont arrivées dans nos petites maisons il y a quelques années, pour vraiment nous faire les choses. Parce qu'en fait, si on ne fait pas ça, on ne sauvera pas la planète.
Ah, merci Mélissa pour ces beaux gestes. On peut applaudir Mélissa. Des éco-gestes. La flemme dont parlait Fibre Tigre en tout début d'émission, qui est là genre, je vois bien qu'il y a un problème, mais j'ai un peu la flemme. Aussi un truc de Mélissa apparemment, c'est que...
C'est moins la flemme que la radinerie, moi. Pour
ah, voilà. Je crois que c'était une forme d'écologie aussi.
Non, mais en fait, dans les années 80, c'était cool d'avoir une Porsche, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, c'est cool de pas avoir de voiture. Et du coup, j'ai économisé 100 000 euros en attendant, voilà, en attendant 20 ans, tu vois. Voilà.
Ah, donc t'es écolo parce que ça te coûte pas d'argent.
Ben voilà, exactement.
Sur ce que disait Mélissa, on sentait surtout que ce qui était très dur dans les éco-gestes, c'est qu'on était perdu sur quel est notre impact positif quand on fait un éco-geste. Effectivement, genre, on comprend plus combien on pèse de manière négative quand on envoie des mails à tout va. Ce qu'on économise quand on retire trois phrases et au lieu de dire lol, comment ça va, lol, rien, et lol, toi, et puis en fait, on envoie pour rien. C'est un peu dur à quantifier en fait ce qu'on pèse et ce qu'on peut économiser en fait dans tous les services qu'on a actuellement.
Ouais, j'aimerais vraiment avoir une appli qui me dise votre bilan carbone, c'est ça.
Ah bah oui,
c'est vraiment.
Mais imagine, tu tapes ton mail et en temps réel, ça te.
Ouais. Mais c'est vraiment le truc dont on parlait avec Yuka. C'est-à-dire que Yuka, il y a toujours eu les.
Yuka, c'est ta chronique du mois dernier.
Yuka, c'est une appli pour scanner les aliments pour voir s'ils sont bons pour nous ou pas. Et ça juste te donne un score et ça te simplifie les choses. Et là, en fait, t'as des milliards de choses qui te disent oui, vous pouvez économiser ça, 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 ça. Mais à la fin, tu sais pas ce que tu peux vraiment économiser et ce qu'il faut mieux faire qu'autre chose.
Mais non, mais déjà, le chiffre unitaire du rejet de CO2 lié à l'envoi d'un mail, il a été déterminé arbitrairement par l'ADEME. Donc déjà, de base...
Il était inventé.
Je sais pas. Parce que
comment tu fais pour avoir une unité, complot. En fait, il y a une unité inventée.
L'ADEME, c'est quand même très, très sérieux comme institution.
Non, non.
Le problème... Non. Quand même.
Attends, c'est pas sérieux.
C'est la seule agence de référence en France qui fait ce genre de choses.
Oui, mais en fait, on se rend compte, parce que je les côtoie dans ma COGIP, par rapport au rejet carbone des transports internationaux, n'est-ce pas? Et les barèmes qu'ils utilisent et les coefficients, c'est du doigt mouillé à 2000%.
Mais le problème dans ce cas précis, pour le numérique, c'est aussi le manque de transparence de Google, de toutes les infrastructures. T'as parlé des infrastructures réseau, tout ce qui est stockage, distribution, bande passante, etc. Les entreprises qui gèrent ça sont pas du tout transparentes sur les chiffres.
Mais est-ce qu'on leur a demandé de l'être?
Non, mais c'est des secrets professionnels aussi.
Pourquoi?
Bah, parce que c'est des enjeux économiques énormes, et si effectivement tu donnes un peu des informations énergétiques, tu vas donner des informations capitales. C'est-à-dire, si je te dis je consomme tant de watts, je sais combien tu as de serveurs et je sais que tu peux gérer tant de personnes avec ces serveurs.
Non, je suis désolé, la taxe carbone et la notion de consommation carbone, c'est une exigence par exemple des clients par rapport aux professionnels du transport. Ils veulent avoir sur leur facture le nombre de tonnes kilomètres en CO2 par rapport à la consommation, enfin ce qu'a généré le transport de leurs marchandises. Et il l'exige, et on est obligé de s'y plier. Ouais. Donc on passe effectivement par des barèmes qui sont déterminés par l'ADEME pour la France, même au niveau européen, je pense. Mais en tant que client utilisateur de Gmail, il suffirait que les clients se mobilisent pour dire « je veux savoir combien coûte...
» Il faut arrêter de se monter la tête sur les mails. Les mails, déjà, on n'en envoie pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est Slack, c'est des choses comme ça. La majorité des mails, la majorité des mails, c'est du spam quand même. Moi, personnellement, pour un mail que je reçois et que j'envoie, genre, il y en a trois qui vont dans ma boîte spam, et c'est des Russes, c'est des, je sais pas d'où ça vient, mais c'est des choses bizarres.
Comme
et,
par hasard.
Et Google les garde 30 jours, donc c'est fameux. Mais attends, il y a un truc qui est fou. Moi, j'ai fait le calcul dans ton truc. Et ce qu'elle a dit, que si vous gardez un mail moyen pendant un mois, c'est autant qu'une ampoule électrique pendant un an.
Ça fait
un milliard d'ampoules électriques allumées. Mais vous vous rendez compte? C'est pas possible. Ça fait toute la consommation française juste pour les mails. Mais c'est pas possible.
Bah, je crois que la nouvelle technologie, c'est 7% de consommation de toute la consommation.
Non, mais là, on parle des mails. Les mails, c'est des choses qu'on n'utilise pas tellement.
Bah, t'es fou, quoi.
Est-ce que, qui dans le public utilise quotidiennement des mails? C'est reçoit ou envoie des pubs. Voilà, c'est à peu près. C'est comme l'ADEME, on est au-dessus des 100% fibre, là. On est à 103%.
Mais moi aussi, je vais pisser tous les jours, mais je vais pisser une fois. Je veux dire, non, mais c'est vrai. Non, mais je tire la chasse d'eau une fois pour pisser. Non, mais c'est vrai. Vous envoyez un ou deux mails, vous en envoyez pas 30. Non, mais c'est ça le truc.
Bah, moi, au boulot,
on démultiplie les usages. Non, on les démultiplie pas. On passe par Slack, on passe par les messengers, par WhatsApp.
Oui, c'est pareil. Mais on déplace le problème. Là, tu vois.
Ouais.
Ouais, mais on parlait du mail. Non, mais c'est vrai. D'accord, mais on peut en parler du problème déplacé. Mais là, pour le mail, il faut pas trop se monter la tête sur le mail.
Alors attendez, juste parce que, évidemment, on parlait de doigt mouillé. Fibre optique est un doigt mouillé sur pattes.
Le bras mouillé.
L'homme mouillé. C'est-à-dire que fibre se met droit et puis il reçoit le vent. Qui, dans le public, envoie ou reçoit les deux en même temps plus de 10 mails par jour? Voilà, donc là on est vraiment à
vous êtes 100%. Tous des spammeurs nigérians.
Mais non, en fait, je crois qu'on se rend même plus compte du nombre de mails qu'on a. C'est entre un mail qui nous paraît important, effectivement, un mail de relance commerciale pour une boutique de sneakers au hasard, ou un spam ou un truc n'importe quoi. En fait, ta barre des 10 mails ou 15 mails reçus ou envoyés par jour en simultané, elle est explosée tous les jours en fait. Donc tes 30 mails par jour, ça me paraît pas déconnant, 30 mails par jour en fait. Donc je pense que nous, effectivement, on bosse beaucoup sur Slack, mais Slack, c'est pas du tout répandu en vrai dans les usages.
Vraiment pas.
Enfin, tu vas dans les grandes entreprises, tout le monde utilise des mails tout le temps, bien sûr. Tout le temps.
Il y a l'équivalent de Slack dans d'autres pour Microsoft, oui, il y a Teams, etc.
Et ce qui est génial, c'est qu'on utilise les mails au sein d'une même entreprise, d'un bureau à l'autre. Ouais. C'est-à-dire que pour envoyer un message à ton voisin de bureau, tu envoies un mail qui va passer par les serveurs de Google,
ouais,
qui va aller donc à plusieurs milliers de kilomètres de chez toi, puis revenir dans le bureau à
mais
côté de toi.
Mais vaut-il mieux l'imprimer?
Et le mec va reculer sa chaise comme ça, ouvrir la porte et dire « Ouais, j'ai bien reçu ton mail, hein !»
C'est génial. Non, mais c'est faux. En fait, ça, c'est si tu passes par Gmail, mais si tu passes par Exchange, par exemple, il y a un circuit local avant de partir.
Ouais.
Tu vois,
mais Gmail, il n'y a pas.
Eh ben, arrêtez d'utiliser Google, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Ah, ouais, voilà.
C'est pas comme si je vous le répétais pas depuis 6 mois. Au moins.
6 mois.
Depuis 10 ans.
Au bas mot.
C'est quoi ton mail principal, Daz?
C'est, kojip.net, hein.
Non, mais ton mail personnel.
Ah, perso? Bah, c'est parce que, voilà. Mais ça veut pas dire que je l'utilise.
Sur les chiffres dont on parlait, justement, c'est intéressant. Il n'y a pas d'unité. J'ai l'impression qu'on a extirpé une unité d'un système pour la mettre dans un système pour qu'elle nous parle. Donc là, c'est un équivalent en émission en CO2 par gramme. Est-ce qu'il n'y a pas une vraie unité énergétique à inventer pour dire tu as consommé effectivement plus en watts, en kilojoules, en ce que vous voulez, mais quelque chose qui serait parlant pour les gens? Parce que j'ai l'impression, enfin, je ne sais pas si les gens sont d'accord, on va voir dans leurs interventions après, que ce qui est flou, c'est qu'on ne comprend pas exactement ce qu'on crée ou ce qu'on ne crée pas, ou ce qu'on dépense ou pas, dès qu'on fait un tweet ou quelque chose comme ça.
L'unité de mesure consacrée pour le bilan carbone, ça reste le gramme de CO2, malheureusement. Ouais. Donc,
mais il est vachement abstrait, en fait. Moi, dans tout ce qu'elle racontait, Mélissa, je n'arrivais pas du tout à visualiser à quoi ça correspondait.
Tu préférerais quoi, des watts?
Ça pourrait être un score, tu vois, comme pour Yuka,
un petit degré de température. Vous avez fait augmenter la température de 0,001 degré grâce à votre mail. Bravo.
Ouais, mais pour une unité, il ne faut pas que tu aies des 0,00.
Ouais, mais si, mais quand même, c'est la température. Tu vois, tu dis, putain, j'ai fait augmenter la température de 15 degrés dans toute ma vie. Tu vois,
tu vois des ours polaires qui tombent comme ça de tes onglets.
Voilà, on peut compter en ours mort, du coup. Ouais. Par contre, en fait, alors, c'est bien parce que.
C'est un petit mail avec des icônes ours, et plus t'écris, plus t'as des ours qui s'éteignent comme ça sur ton mail.
La chronique de Mélissa, en fait, elle partait d'abord comme une charge totale et implacable contre les blogueuses mode qui se reconvertissent avant de tourner et de pivoter.
Les consultants mode, attends.
Ils sont consultants mode, pardon.
Il ne faut pas dire son prénom trois fois, hein, elle l'a dit deux fois déjà.
Sinon, elle apparaît dans ton dos.
Sinon, elle vient de l'hélicoptère.
Ok, je ne le dis pas. Je ne le dirai pas. Donc, ton Voldemort, là, tu doutes un petit peu quand même de la démarche.
C'est ce que j'ai pu comprendre. Je doute de la démarche, c'est que je n'arrive pas à comprendre ce qu'il faut vraiment faire. Parce qu'en fait, il y a 1000 choses à faire. Le truc, c'est qu'on va pas pouvoir tout de suite faire 1000 choses, donc faut essayer de voir ce qui aiderait le plus déjà.
Alors, question pour le problème à l'envers. Est-ce que le fait d'utiliser des mails et des écrans, c'est pas déjà plus écologique qu'avant?
Non, mais oui, il y avait ça dans ma première version de chronique.
Bah oui, non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on est déjà pas dans une version optimisée du passé? Et est-ce que demain,
non,
ça va
oui,
pas être encore
mieux? Non, mais
oui,
au début, mais maintenant, en fait, il y a tellement d'usages qui se développent. Enfin, tu vois bien le nombre de devices qui sont
stables. Est-ce qu'on se retrouve pas dans le cas des gens des années 50, à qui on a donné les voitures, etc., à essence qui consommaient moins que les trucs à charbon ou les crottins de chevaux, et qui se sont dit, c'est génial, c'est sans limite, et on accuse aujourd'hui la génération d'avoir consommé que ce soit l'énergie, des voitures, de la bouffe, tout ce que tu veux de manière illimitée. Et aujourd'hui, on les accuse de ça. Est-ce que nous, on va pas nous accuser dans 20 ans de dire, mais ces gens, c'était n'importe quoi. Ils ont envoyé des mails pour tout et pour rien. Ils avaient un système push pour 60 applications qui envoyaient des notifications pour tout et pour rien. Et est-ce qu'on va pas aussi nous accuser, nous, alors que nous, aujourd'hui, on se dit, bah, effectivement, ça me paraît encore un peu infini, le numérique. J'ai l'impression quand j'envoie des mails, de tuer zéro arbre, en fait, alors qu'il y a une empreinte. Est-ce que c'est nous, est-ce qu'on n'est pas nos parents du numérique?
Est-ce qu'on n'est pas nos parents du numérique?
C'est-à-dire complètement inconscient sur
notre poids écologique. Ils envoyaient des émoticônes. Tu connais le poids d'un émoticône,
c'est 4 caractères en Unicode, c'est insupportable. Non mais en fait,
on se bat pour faire des top tweets, pour être le plus retweeté possible, c'est-à-dire être affiché sur le plus d'écrans possible. Ah
bah d'ailleurs, c'est la question qu'on s'était posée. Est-ce qu'être influent, c'est tuer la planète du coup?
Exactement.
Voilà. Est-ce que quand t'as 1 million de followers sur Instagram, c'est-à-dire qu'à chaque fois, 1 million de personnes vont uploader ta photo de ton selfie sur leur téléphone, et en fait, tu crames la planète à chaque fois que tu prends une photo.
Comme disait Lord of War dans le film où il vendait des armes, oui. Il disait de toute façon, si je le fais pas, quelqu'un d'autre le fera.
Oui.
Donc je suis bon à ça. Donc effectivement, cette photo, elle sera faite et vue par d'autres personnes aussi, parce que c'est les usages globaux.
La métaphore du marchand d'armes.
Oui. Donc tu dis que les influenceurs sont comme des marchands d'armes et que c'est pas grave.
Ouais,
non,
j'ai dit simplement que quel que soit le business.
Moi, je connais pas 404, c'est le moment où on commence à atteindre la vitesse de croisière
pour citer un autre film, la vie trouve toujours son chemin.
Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que dans les propositions imaginées par Mélissa, alors à chaque fois, on transforme le pays en république marxiste, léniniste.
Non, mais parce que Mélissa remet en cause le fait qu'on est des flemmards, et ce qui est vrai, c'est qu'on est aussi un peu flemmards. Ouais, enfin, si on n'a pas une vraie carotte et surtout un vrai bâton, en fait, on va pas vraiment se bouger le cul.
Non, mais en fait, encore une fois, qui est le plus coupable, le drogué ou le type qui lui fournit la drogue? C'est aussi dans Lord of War. Non, c'est pas vrai. C'est dans un album de Freddie Gibbs. Mais en fait, le truc, c'est que on a toute possibilité à, par exemple, retracer l'origine d'un email, ok? Donc, il devrait y avoir un scoring au niveau du spam, et on devrait réussir à remonter à la source du spam, ou en tout cas, Google devrait dire, bah voilà, sur le mois écoulé, la cote-barre de spam de votre entreprise est de tant, donc vous me devez tant, et ils arrêteront de nous casser les couilles, en fait, tu vois. C'est-à-dire, il faut mieux
pénaliser. Le Nigeria, il est déjà endetté, hein.
Bah, allons-y, on va jusqu'au bout. On rase le pays et on fait un parking.
Ce que tu proposes, c'est une taxe carbone. Une taxe carbone sur le spam.
Plutôt que, chaque fois, culpabiliser. Parce que là, j'entendais le truc, c'est genre, t'as des spams dans ta boîte, c'est ta faute. Mais moi, j'ai jamais demandé à recevoir des spams. Je ne suis pas coupable.
Non, mais déjà, Google est un peu con parce qu'il a une rubrique spam. Genre, j'en veux pas. Enfin, moi, j'y vais de temps en temps pour regarder. C'est toujours mignon, votre pénis est trop petit. Voilà.
Voilà, chacun ses kinks.
Voilà, vous avez hérité de 1 million. Bon, et ben, pourquoi il les garde, franchement? Détruis-les, Google.
Oui.
Ouais, c'est vrai qu'il est capable de les classer.
Mais ça nous empêche pas, nous, d'envoyer des mails pour tout et pour rien, de dire, lol, comment tu vas, je t'envoie une photo, lol, je fais rien, je t'envoie une photo, qui sont des usages, peut-être dans 20 ans, qui seront jugés irresponsables.
Depuis tout à l'heure, vous avez parlé de ça, j'y crois pas. Un peu comme les extraterrestres, je voudrais voir des gens qui envoient 10 mails par jour en disant, lol, je t'envoie une photo. Qui fait ça? Enfin, les vieux font ça, mais pas
t'es le premier à faire une demi-heure de stories par jour pour dire, bonjour, j'ai une théorie sur les pains au chocolat, je mange un pain au chocolat. C'est ça.
Mais là, on parle des mails, c'est autre chose.
Mais non, on parle pas des mails, on parle de tout le numérique.
Ah non, l'usage,
c'est vrai que t'as un gouffre énergétique, Fibre, sur Instagram.
Mais j'ai pas dit que j'étais le plus écolo.
Par contre, je crois qu'on est chocolatine ici.
Ah, moi, je suis chocolat.
Je crois qu'ils ont compris qu'on n'était pas d'ici.
Donc, pour en revenir à tout ça, est-ce que, du coup, on aurait un système qui nous permettrait... Déjà, est-ce que vous paieriez une taxe d'empreinte carbone numérique? Comme aujourd'hui, sur nos billets d'avion, je pense que ça choque plus personne de payer 1 euro, 2 euros en plus sur son billet d'avion ou sur son éco-pli parce qu'il s'est fait livrer un truc. J'ai pas l'impression que ça choque les gens. Est-ce qu'aujourd'hui, à la fin du mois, vous auriez l'ADEME qui vous enverrait une facture entre 50 centimes d'euros et 8 euros, 10 euros pour votre consommation et votre empreinte carbone numérique? Vous seriez prêt à payer ça ou pour vous, c'est un non?
Alors oui, si comme l'a dit Mélissa très justement, et je t'en remercie, si je peux un jour aller visiter ce parc où ils plantent les arbres d'Écosia. Si je peux y aller et que je regarde, je renifle mes arbres et je dis ok, je suis content. Là, mais je soupçonne que ces arbres n'existent pas.
Écosia, c'est du greenwashing, on l'a dit. Ouais. En fait, Écosia, c'est bing.
Non, mais attends, ça se trouve, la forêt existe.
Ta taxe, c'est pas pour planter des arbres, ça serait pour renflouer le gouvernement français qui est en perte de vitesse.
Bah, ça sert à quoi aujourd'hui l'éco-taxe quand tu
renflouer le gouvernement français qui est en perte de vitesse
pour financer la nouvelle Adopi qui arrive là.
Ah oui. Bon, alors imaginons qu'on est dans un scénario plus optimal où pour créer des arbres, des cerises dans ton jardin pour aider à par exemple nettoyer l'océan au hasard ou des choses comme ça, vous payez une éco-taxe mensuelle qui va vers l'État sur ce que vous créez, vous consommez comme énergie avec vos gestes numériques.
Moi, je paye.
Est-ce que un vous payez, est-ce que deux ça vous donnerait envie vraiment de vous bouger le cul pour optimiser, amaigrir, affiner votre consommation numérique?
Moi je paye, et pour l'affiner, j'aimerais qu'ils me fournissent une infographie hyper détaillée de ma consommation.
D'accord.
De 45
en PDF.
Mégas.
Et de là, et dans un mail en pièce jointe avec 10 personnes en copie.
Non, de la gravure sur bois. Non mais où je vois vraiment mes gros postes de dépenses énergétiques, ouais, sur Internet.
Comme un truc de gestion d'argent, quoi.
Ouais, mais, ouais.
Okay.
Ce serait hyper cool.
Daz, est-ce que tu paierais, et est-ce que tu voudrais qu'on ait des systèmes comme peut-être moins punitifs que ce que mes Samy, mais évidemment le gros système,
ouais,
mais d'avoir des systèmes qui te permettent d'optimiser, d'affiner ta consommation et d'être conscient de ta consommation et de la payer.
Eh bien écoute, je n'ai pas d'océan près de chez moi et j'ai pas de jardin. Démerdez-vous.
Oh là là.
Démerdez-vous. Non, je plaisante. Oui, je serais prêt à payer, mais encore une fois, on fait ça, on paye comme la taxe sur la copie privée qui va, on sait pas trop où, etc. Donc c'est taxer pour taxer, non.
Je te parle dans un monde idéal où ton argent va à 100% et de manière libre.
Par exemple, dans un monde où le président est Sylvain Palais.
Et tu peux suivre la traçabilité via blockchain.
Oh, oh, génial.
La blockchain, ça prend de l'électricité.
On n'a pas parlé des crypto-currencies, mais... parce que sinon on aurait fait une autre émission. Mais ouais. Ça, tu paierais et tu prendrais des outils pour...
Je paye, et je paye aussi pour le service détaillé par Sylvain.
Très bien.
Pour savoir comment améliorer. Vraiment.
C'est un service premium, par contre.
C'est payant et du coup, c'est un site hyper consommateur d'énergie.
Si c'est premium, c'est que quand t'es premium, t'as le graphique, mais qui pèse plus lourd, donc tu le repayes en plus.
Ce service-là, ça veut dire que t'as un boîtier installé chez toi qui communique en permanence Linky. Avec la maison mère, un peu comme le Linky.
Un peu comme une box internet.
Non, pas du tout pareil.
Bah si.
Parce que VPN.
Quoi?
Hein?
Oh, tu vas pas commencer à se tricher. Fibre, pour finir. Après, on vous donne la parole au public.
Je paierai parce qu'il y a une personne dans mon couple qui me forcerait. Mais je tiens à vous dire que si cette taxe existait, je pense qu'il y aurait toute une infrastructure, il y aurait toute une mentalité, une infrastructure en France, notamment un vrai ministère de l'écologie, qui ferait en sorte que les choses qui est vraiment un engagement écologique de la France. Et donc, dans ce cas-là, oui, voilà. S'il y avait une Adopi de l'écologie, pourquoi pas?
Wow. Oh là là, à chaque fois que tu cueilles une fleur, t'as un mec qui arrive et qui te fait payer la fleur que tu viens d'arracher.
Non, il t'envoie d'abord une lettre.
Ah,
d'abord, il t'envoie une lettre pour t'avertir.
Vous avez cueilli une fleur, c'est ça, Adopi? Ok. Voilà.
Très bien. Est-ce que dans le public, il y a des réactions par rapport à cette chronique sur les éco-gestes? Je vois une, deux mains qui se lèvent. On va commencer par le monsieur, il est ici, la demoiselle là, le monsieur là. Bonjour.
Bonjour. Moi, ce que je me disais, c'est que peut-être qu'on n'est pas... je pense qu'on n'est pas conscient... aussi de l'impact écologique. Par exemple, je sais pas, le truc le plus simple qui me vient à l'esprit, c'est quand même parce qu'on parlait des mails, surtout la recherche Google. On a dit combien ça coûtait une recherche Google, c'est quand même incroyable. Mais c'est aussi parce que c'est tellement immatériel, en fait. On ne sait pas, quand on a une voiture, on voit bien l'essence, on la met, après on voit la vapeur qui s'échappe, et c'est pareil pour l'avion, c'est pareil pour tout ce qui est recyclage, on voit bien notre poubelle, tout ce qu'on consomme, l'électricité, on parle souvent des ampoules. Mais par contre, quand on fait une recherche Google, franchement, est-ce qu'on a l'idée que de façon indirecte, on va avoir un impact, une trace carbone, une empreinte carbone? C'est pour ça que moi, toutes ces données-là, je les connaissais, mais ça me paraît, mais...
C'est immatériel, en fait. Ouais. C'est trop loin de...
Bon, on avait parlé des ours polaires qui se grisent petit à petit quand plus ton mail est long. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même peut-être un système qui te permettrait, encore une fois, de... visualiser, matérialiser ce que tu crées.
Un compteur de requêtes, déjà. Genre.
Mais imaginons que sur ton téléphone, t'as des barres de réseau, puis t'as aussi une barre de consommation qui, je sais pas, se remplit ou se vide, je sais pas. Est-ce que vous auriez besoin de ça aussi, quelque chose qui vous permet, encore une fois, de, effectivement, comme dit le monsieur, ce qu'on disait, ça nous paraît infini d'envoyer un mail, c'est rien, alors qu'en fait, il y a un coût. Est-ce qu'il faut ça?
Déjà
un compteur, même si c'est anxiogène ou si c'est stressant.
Déjà, la traçabilité du coût coûte. C'est un peu comme il faut des impôts pour payer les inspecteurs des impôts. Ensuite, si ça se trouve, le temps qu'on trace les coûts, il n'y aura plus de coûts. C'est-à-dire que Facebook, il a commencé à mettre ses serveurs en Antarctique. On ne sait pas si c'est bien. Mais en tout cas, on paye ça coûte moins cher
Ça coûte toujours rien, Facebook, tu sais, Fibre.
Ouais, non, mais je veux dire, ça coûte moins cher en refroidissement. Oui. Il y a moins de climatiseurs qui travaillent. Par contre, ce n'est pas le cas de Netflix. Il commence à avoir dans la Silicon Valley des bâtiments qui sont soi-disant en énergie totalement renouvelable. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de discuter d'un problème qui, dans 20 ans, en fait, les gens se diront, mais pourquoi ils discutaient de ça, tu vois?
Mais peut-être que, oui, dans 20 ans, sera peut-être trop tard, du coup.
Bah non, il y aura des voitures électriques dans 3 ans, donc...
Pardon.
Sylvain, t'étais d'accord pour avoir un compteur, quelque chose de constant?
Il y a un truc assez marrant qui m'y fait penser, c'est qu'il y a un éco-geste qui consiste à, dans votre navigateur Chrome, taper une adresse directement dans la barre, avec le HTTP et le .com à la fin,
oui,
pour ne pas passer par Google, pour visiter un site qu'on connaît déjà.
Mais qui n'a jamais tapé Google dans Google?
Ou voilà, Facebook dans Google, pour cliquer sur le premier lien, quoi.
Évidemment.
Donc, ça, c'est assez marrant aussi.
Donc c'est vrai, enfin ça, je pense qu'on le fait tous, même quand on connaît l'adresse, parce qu'on a l'impression que ça va plus vite.
Je vais vous apprendre un raccourci. Pomme entrée sur Apple et contrôle entrée sur PC, ça rajoute le .com à la fin automatiquement.
Ouais. Voilà.
Wow. C'est cadeau, merci.
Je crois que t'en as un pour avoir le point .net et .org aussi, je crois.
Possible.
C'est possible. Vous avez besoin aussi de visualiser, bah Fibre, je pense que toi tu le vois pas non plus, donc ce serait pas mal d'avoir un truc, je sais pas, en haut à droite de ton téléphone.
Non. Mais en fait on l'a déjà, vous regardez consommation des réseaux.
Mais tu l'as pas constamment devant toi, en fait.
Non, mais peut-être quand, comment dire, parfois on regarde. Quand moi, je sais pas, j'ai droit à 5 gigas. Je suis sur Soch.
Ouais.
J'aurai 5 gigas. Je les dépasse allègrement au bout du deuxième jour, tu vois, et je regarde d'où ça passe.
Enfin, oui, parce que t'es radin, encore une fois.
Plus internet.
C'est l'autre argument. Mais ça, tu voudrais avoir un compteur constant devant toi pour matérialiser ton.
Mais Mélissa, c'est
ça. Elle a besoin de se mortifier. Je suis mauvaise.
Non, mais je veux savoir ce qui marche, ce qui marche pas, et essayer d'améliorer, quoi.
Très bien. On avait une question par ici et après par ici. Bonjour, oui.
Bonjour.
Bonjour.
Donc on parlait d'Ecosia et effectivement moi j'ai découvert Ecosia parce que j'avais fait tomber mon sac à l'instant. Merci assistante. J'ai fait une collection qui était éco-responsable, etc. Et on m'a dit, tiens, qu'est-ce que tu utilises comme moteur de recherche? Mais c'est venu juste dans nos échanges Gmail, en fait. Et on me parle d'Ecosia. Donc, du coup, j'installe le truc, mais je me rends compte que par rapport à Google, ça fait un peu un effet Bing. Et j'avais aussi participé au lancement de Bing en 2008-2009, ça n'a pas marché.
Ah, on y a cru un moment.
Mais c'est pas de ma faute. Il n'y avait pas d'argent, beaucoup. Bref, tout ça pour dire que oui, en fait, c'est au bout de 40 recherches, de requêtes, il y a un arbre qui, soi-disant, est planté quelque part, ou je sais pas, j'ai aussi essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé, mais c'est au bout de 40 requêtes, oui, il y a un arbre. Ah, c'est pas une requête, un arbre, en fait. Donc, si quelqu'un sait...
Où sont plantés les arbres.
Oui, voilà aussi. Et le deuxième, je suis totalement d'accord avec Mélissa. J'aimerais avoir une sorte de site qui répertorie, genre, tiens, moi, je suis vraiment nulle à ce niveau-là. Genre, trois options. Qu'est-ce que je pourrais faire, en fait?
Ouais. Donc, genre, un graphe avec des stats et un call to action.
Et on me propose trois trucs, genre, qu'est-ce que je suis capable de faire là dans l'immédiat, et des trucs un peu plus gros, genre, ouais, là, j'ai eu une médaille, enfin, un truc un peu sur...
La gamification.
Je vis avec un gamer, c'est compliqué.
Un ranking mondial.
Un ladder.
Et pas du tout anonyme. Avec vraiment le prénom, le nom, l'adresse, tout.
Genre les applications de running, mais...
Et tous les mois, celui qui est tout en bas, on le fusille.
Bienvenue dans les Hunger Games.
Non, mais pour de vrai, il faudrait valoriser la requête, en fait. Il faudrait dire, est-ce que cette requête était pertinente ou pas, tu vois.
Mais imagine, t'es jugé, genre, t'as vraiment fait de la merde. Bah imagine la notification que tu veux jamais lire, quoi. Mais qu'est-ce que tu branles?
Bah, génial. Bah, justement, voilà.
Ah bah, peut-être. Dans le public, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient avoir sous les yeux constamment un compteur?
Non, mais surtout, il y a des gens
et un rapport de ce qu'ils consomment et de ce qu'ils génèrent ou pas. Levez la main ceux qui seraient intéressés ou pas. Un tiers, un quart.
Un quart, un cinquième.
Je pense qu'il y en a qui s'en foutent et ceux qui sont vraiment contre, mais contre. Il n'y a personne qui ose lever. Une personne. Toi non plus, Daz.
Bon, non, c'est inutile.
Comment ça?
C'est inutile parce qu'encore une fois, c'est un barème qui dépendra d'un comptage. C'est un peu comme le permis de conduire, si tu veux.
Ah, comment c'est pas avec le permis de conduire?
C'est un droit qu'on t'octroie, mais je veux dire, c'est la justice des hommes qui te l'octroie. Ça n'a rien à voir avec l'univers et les lois cosmiques, donc j'en ai rien à foutre. Tu vois?
Tu penses qu'il y aura des délits de faciès de sites web? Genre, vous êtes allé sur
sujet épineux. Pourquoi pas?
Non, parce que, effectivement, tu vois, Pornhub, ça consomme vachement. Il y a des gens qui vont dire, eh oh, quand même, vous tuez les océans pour vous branler, super, quoi. Non, mais en vrai.
Non, mais c'est vrai que Pornhub pourrait te dire, par exemple, ça fait plusieurs fois que tu viens sur ce site pour regarder la même vidéo.
Télécharge.
Ça serait quand même mieux de la télécharger.
Là, disque dur. Tu la renommes, tu mets un point PDF à la fin, tu changes un peu l'extension.
On te la renomme.
Tu mets ça dans le répertoire travail. Et ouais, il y a des trucs à faire, en fait, hein, surtout sur le porno, je pense.
Donc on revient juste pour finir sur le débat, on revient sur la conclusion de la chronique de Mélissa qui était, il faut qu'à un moment soit, nous on est un peu ouf flemmard ou un peu perdu ou un peu mauvaise foi, il faut que ce soit les compagnies, les services qui aillent vers nous pour nous pousser à faire le truc, on peut pas le faire seul comme des grands.
Qui nous
impose. Eh ben dis donc, c'est
surtout j'arrive pas à mesurer à quel rythme ça va. Genre si on est vraiment en train de tout niquer très vite, parce que comme ça fait 15 ans qu'on est sur internet,
ouais.
Bah on s'est pas vraiment rendu compte de tout ce qu'on faisait et j'aimerais savoir à quel moment on se grille quoi. Je pense qu'on est déjà grillé.
Ça va
bon.
Être très bon. On aura la forêt d'Ecosia qui va nous sauver.
Ouais.
D'ailleurs, est-ce que c'est écologique de taper une adresse dans Ecosia au lieu d'aller directement sur le site du coup? Ah ah.
Bah en fait, j'utilise le moteur de Bing.
Bah non, parce que
sur le moteur de Bing, il y a des publicités qui s'affichent. Et c'est ces recettes publicitaires qui sont utilisées pour planter des arbres.
Mais donc tu bouffes plus de bande passante et donc d'énergie pour accélérer la plantaison d'un arbre.
Alors, en fait, Ecosia, c'est une start-up, hein, c'est pas une association.
Allemande.
Ouais. J'irai un peu plus loin, il y a le mot bénéfice qui est un petit peu pervers. À mon avis, c'est des bénéfices de l'entreprise qui modulo, si elle est en faillite, il n'y en aura jamais. Donc voilà. Attendons cette forêt virtuelle et un jour visitons-la.
Il y en a 4 millions qui ont été plantés, je veux juste.
Waouh, 4 millions d'arbres. Ouais. Ben, grand jardin, hein.
Sacré jardin dans les locaux d'Ecosia. Très bien. Et ben écoutez, on va clore ce sujet là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais en fait, il faut qu'on avance. Et on va attaquer tout de suite la première FAQ. Et la première FAQ, elle va être posée par Inigo. Alors, du coup.
FAQ.
Je sais pas pourquoi je sens qu'Inigo, il va être assez actif dans cette émission.
Alors, je posais la question si vous pouviez prendre la tête de n'importe quelle entreprise liée à la technologie. Ça peut être les GAFA ou une autre, laquelle vous choisiriez et qu'est-ce que vous feriez en premier, genre première action quand vous arrivez?
Alors,
on vous
propulse à la tête d'une grande start-up, une GAFA ou autre.
C'est une émission jeu de rôle en fait.
Oh, ouais. Arrivez. Alors, il y a interdit de faire des coques de biscuits mous parce que ça a déjà été fait, donc on reconnaîtra tout de suite les feignants.
Moi perso, je commence. Alors, bim, j'irai voir Tesla.
Ok.
J'irai voir Tesla parce qu'ils sont capables de perdre 40 millions de dollars en un tweet.
Ouais.
Et je trouve ça incroyable, le ratio dollar perdu avec par nombre de caractères. Donc non, ouais, j'irai voir Tesla, je virerai Elon Musk définitivement et je ferai des trucs intelligents en fait.
Et quoi?
Des skateboards.
Des voitures qui sont bien conçues.
Oh, genre c'est bien conçu une Tesla. Arrête.
Oui, quand
tu parles d'une décision, tu deviens un chef de Tesla, tu dis faites des bonnes voitures maintenant.
Eh ben mon gars, c'est comme ça qu'on fait avancer le monde. Il faut poser tes baloches sur la table, tu vois.
Le PDG à la française, tu sais. Bon, c'est quoi ce
Berthier
bordel
dans mon bureau.
T'as trop bossé à la cogite.
Non, ouais, je prendrais Tesla et je ferais des trucs cool, plus cool que ce qu'ils font.
Pff, oh, le mec.
Par exemple des skates électriques.
Ah là là. Qui veut répondre aussi à la question? Sylvain?
Je prendrai la tête d'Ecosia.
Ouais.
Et je la mettrai sur un pic.
Je me rendrai compte qu'ils font des trucs de ouf et je leur dirai, putain les gars, vous avez un vrai déficit d'image parce que vous êtes fait défoncer dans la dernière émission de 404.
Très bien.
Pour leur rendre un peu justice, hein, parce qu'on n'en sait rien, ça se trouve, ils font des bons trucs.
Peut-être qu'en fait, ils ont replanté un bout entier de planète
c'est
et personne ne le sait.
C'est une start-up allemande. Je vous laisse avec ça.
Qui est con. Fibre ou Mélissa?
Moi, je veux bien.
Vas-y.
Je prends la tête de Valve.
Ouais, Valve Software.
Je valide tous mes jeux.
Alors, déjà, Half-Life 3, je dis, allez, on fait Half-Life 3, déjà. Comme ça, les gens, ils m'aiment bien. Et après, je ferai pas mal de choses pour changer le mode de fonctionnement de Valve. Donc, Valve, c'est le grand supermarché des jeux vidéo. Donc, déjà, je baisserai
sur PC,
la quote-part qu'on se gave, là. Au lieu de prendre 30%, on prendrait plus que 10%. Et on fera une meilleure sélection des jeux. C'est-à-dire qu'on
sera
plus quali.
On mettra que des tigres tigres.
Non, même pas. On sera plus quali parce qu'aujourd'hui ils acceptent n'importe quoi et malheureusement ça devient la foire fouille. C'était la Fnac et maintenant c'est n'importe quoi. Voilà.
Très bien. Mélissa, de quelle boîte tu prendrais la tête? J'hésite. Et qu'est-ce que tu ferais? Tu hésites?
C'est hyper dur.
Ah, il y a un beau choix.
Slate.
Non.
Imagine, on dit tu peux avoir la boîte que tu veux. Oh, Slate. Et j'interdirai les articles sur la carbonara, bien sûr.
Google et je clean tout. Et je remets en service les vieux trucs qu'on adorait, qu'ils ont supprimés.
Voilà, merci beaucoup.
Ah bah oui,
Google Reader,
genre
par exemple.
Google Reader.
Google Wave.
Et tu peux laisser
Inbox? Non, pas Google Wave.
Ouais. Tu pourrais détruire Android ou pas?
Non.
Ah, c'est dommage.
Ça ferait la moitié des smartphones.
Qui est con. C'est sur cette très bonne remarque, Daz, que tu vas prendre le relais du coup, puisque nous allons attaquer le deuxième sujet avec toi.
Pour régler le problème de la high-tech, j'ai une solution.
là, encore plus high-tech.
Oh là 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 là. Vous voyez le titre? Vous voyez le genre de chronique qui va arriver ou pas? Bouclez vos ceintures, ouvrez vos chakras et pardonnez-le.
Soyez
tout de suite.
Pardonnez-le.
De tout temps.
Non, alors le pardonnez pas en fait.
De tout temps, le progrès a été synonyme de mouvement vers l'avant. Les gens qui me disent qu'ils sont pour un arrêt, voire un retour arrière, m'effraient. Ils m'effraient et leur vision est erronée. Alors, avant de commencer, je vais consulter Wikipédia pour en savoir plus sur cette fameuse low-tech.
Qu'est-ce que les low-technologies ? Système d'autoproduction d'énergie, de nourriture, de permaculture, retour à la consigne, recyclerie. Les initiatives low-tech proposant des solutions techniques plus simples, plus accessibles et plus durables se font de plus en plus nombreuses. À fort potentiel d'impact social et environnemental, l'innovation low-tech invite à repenser notre rapport au développement par le tout high-tech pour développer des alternatives de consommation, d'usage et de production en phase avec les grands enjeux de notre temps.
J'ai rien compris.
Si tous les lecteurs de Wikipédia donnaient 1 euro...
Non, mais ça va, ça va, ça va, ça va. Ok, donc cette définition de low-tech me convainc de dire qu'en fait, on va pas du tout en parler parce que c'est de la merde. Moi, plutôt que la low-tech, oui, je sais, des poils se hérissent, on en parlera après, je suis prêt à tous vous taper du moment que vous venez un par un. Alors, je vais vous donner en fait un conseil très simple. Changez votre matériel informatique ou autre le plus souvent possible. Petite anecdote. Attendez avant de vous indigner. Petite anecdote.
Ils s'indignent pas, ils sont en train de recharger leur pistolet.
Oui, je sais. Mais je suis prêt à mourir pour la cause. Mercredi dernier, pour de vrai, j'étais chez mes parents et le cas classique s'est présenté. Ma mère m'a dit on a changé le four, il avait 20 ans. Une de mes tantes a renchéri. Moi, c'est mon congélo qu'on a depuis 25 ans. S'en est suivi évidemment le discours habituel. Ah là là, c'est pas les appareils actuels qui dureraient aussi longtemps. Ah ça, non alors. Encore heureux, bande de maboules. Votre congélateur Brandt de 1993, en termes de conso énergétique, c'est Las Vegas. Quand vous l'ouvrez pour vous envoyer un esquimau dans le gosier, ça prend au sens littéral. Vous flinguez vraiment un Inuit sur la banquise. Le moteur, déjà pas à la pointe de la tech, ne doit plus tourner comme au premier jour. Les joints sont flingués, la tuyauterie est blindée de micro-fissures. Bref, votre appareil électroménager est un gouffre. En discutant avec ma famille, en leur criant dessus donc, j'ai été surpris de constater que ce qui est une évidence quand on parle automobile et pollution, à savoir que les voitures vieilles polluent plus que les récentes, bah c'est absolument pas le cas pour eux, pour la technologie et tout ce qui est appareil domestique. La règle est pourtant simple. Un vieil appareil peut être efficace, mais il ne sera jamais efficient. Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous expliquer la différence entre efficace et efficient. Si vous êtes ici, c'est que vous le savez. Et là, vous allez googler et donc vous allez tuer des ours. Alors, je blâme pas les gens, hein. Ils sont influencés par le marketing qui bien souvent communique plus sur la puissance que sur d'autres critères comme l'autonomie, grande cause 2020, marquez mes mots, merci, ou la facilité à retraiter, recycler les objets. Ce qui est logique puisque pour le fabricant, ça reviendrait à dire que l'ancien modèle était nul à chier. On rigole de la gymnastique d'ailleurs à chaque fois, hein, de la gymnastique linguistique d'Apple, à chaque keynote, parce qu'il pousse un nouveau modèle, sans explicitement dire que l'ancien était une merde. Et moi, à chaque fois, c'est merveilleux. Ils nous disent en gros, c'est pas celui de l'an dernier qui est nul, c'est celui d'aujourd'hui qui est vraiment, vraiment mieux en fait. Mais concrètement, en 15 ans, on a réussi à faire des bons technologiques incroyables et personne ne le réalise vraiment. Votre ordinateur par exemple, son processeur, il était gravé avec une finesse de 130 nanomètres en 2003. 15 ans plus tard, il est gravé en 12 nanomètres. C'est-à-dire que c'est 10 fois plus fin en fait. Ça veut dire que votre CPU, votre processeur, il consomme moins d'énergie et que son enveloppe thermique, son TDP, est beaucoup plus basse. Il chauffe moins, il consomme moins en tournant beaucoup plus vite. Il est efficient. C'est ça le futur. Le processeur, c'est le cœur de vos ordinateurs, mais c'est aussi le cœur d'une doctrine japonaise appelée Gijutsu Noko Jukan, ou en français, le cercle vertueux de la technologie. Ne le googlez pas, c'est pas la peine, vous allez consommer des trucs. Alors je vous décris rapidement.
Mytho.
Hein, qu'est-ce que le Gijutsu Noko Jukan? En fait, le CPU est gravé plus finement, il a besoin de moins d'énergie pour fonctionner. Donc, on réduit la taille de la batterie. Donc, on a moins besoin d'extraire des minerais rares et des métaux précieux. Donc, on diminue la pression sur les pays qui extraient ces matériaux, comme le cobalt. Donc, on diminue aussi les luttes de pouvoir et les conflits armés dans ces pays. Donc, on arrive à une stabilité géopolitique. Donc, développement de l'éducation. Naturellement, émergence d'une classe moyenne. Migration du pays vers le tertiaire. Pacification de la région. Et par capillarité, sous 20 ans, règlement du conflit israélo-palestinien.
C'est quoi le nom de ta théorie déjà ?
C'est le Jijutsu Noko Junkan.
Ouais, bien sûr.
Mais ce n'est pas tout. On réduit la taille de la batterie. Donc, on réduit la taille du châssis, Mélissa. Donc, l'empreinte environnementale se réduit également. On réduit les déchets. Les villes sont plus propres. Du coup, on baisse le recours aux entreprises mafieuses pour ramasser nos poubelles. Du coup, on diminue la criminalité, baisse des impôts locaux, augmentation du pouvoir d'achat, croissance économique, plein emploi. Vous voyez ? En achetant un Intel Core i9 8950HK, vous pacifiez le Moyen-Orient. Arigato gozaimashita. Et là, vous allez me dire, mais Cantange, tu règles le problème des déchets en produisant plus de machines. Assassin !
Ouais, j'allais le dire.
Voilà. J'allais le dire aussi.
Je sais. Rome ne s'est pas faite en un jour. De toute façon, on va pas à Rome. Le but, c'est de sortir les machines les moins efficientes du marché pour réduire la pression énergétique et la dépendance à l'énergie nucléaire. Donc en fait, quand on fait ça, on construit moins de centrales nucléaires. Vous la ramenez moins, là. Le progrès qu'il est... Je suis obligé de prendre des raccourcis. Tous ces gens ne sont malheureusement pas des docteurs en physique nucléaire. Le progrès étant ce qu'il est, les machines restantes seront plus facilement recyclables. Les initiatives se multiplieront. Prenez celle d'Apple, par exemple, qui augmente à chaque itération de l'iPhone le pourcentage de matériaux recyclés pour produire de nouveaux iPhones. Augmente également le prix, mais c'est une autre histoire. Pour citer Hélène MacArthur, parce que c'est un grand homme ici présent qui m'a cité Hélène MacArthur, il ne faut construire que ce que l'on peut déconstruire.
C'est beau.
Cet homme est payé avec vos impôts. La surconsommation, comme on l'appelle ici, on a donc pour seul but que d'amorcer la pompe permettant d'accéder plus rapidement à des appareils qui se recycleront totalement. Et alors là, évidemment, on va me sortir « Ok, on parle d'aval, mais quid de l'amont ?» Ça, c'est tous les hydrologues qui me disent ça en mordillant leurs branches de leurs lunettes en écaille. J'y viens, justement. De la même manière qu'on a amené donc les industriels à considérer les véhicules électriques quand ils ont compris que l'exploitation des énergies fossiles allait droit dans le mur, enfin nous menait droit dans le mur, l'élan consumériste va amener les industriels à trouver des alternatives aux minerais rares et métaux précieux, extraits dans des conditions qui sont souvent horribles. On envisage par exemple les batteries au graphène, qui donc promettent plus d'autonomie, donc une très bonne inertie énergétique, et qui sont aussi beaucoup moins compliquées à extraire. Et on envisage ça uniquement parce que avant, on a eu les batteries au lithium-ion, au lithium polymère, et on s'est rendu compte que ça suffisait pas. Avant ça, c'était pareil, c'était le nickel, le cadmium qui était en fait le standard de la batterie. Si on cesse de consommer de nouveaux produits, Mélissa, nous n'aurons pour seul niveau d'innovation que celui qui est en vigueur au moment où nos appareils ont été produits. Pourquoi racheter un chargeur USB ? Celui d'il y a 10 ans fonctionne très bien. Oui, Mélissa, oui.
On fait quoi de tous ceux d'avant, du
chut. Oui, Mélissa. Il fonctionne bien, mais il ne régule pas sa conso, ton chargeur d'il y a 10 ans, en fonction du niveau de charge de l'appareil connecté, par exemple. Il n'est pas intelligent. Tu sais que les chargeurs que tu achètes maintenant, quand ils ont fini de charger, ils arrêtent de consommer de l'énergie. C'est pas la peine de les faire sonner, en fait, pour que tu puisses les débrancher. Transition, évidemment, toute trouvée hein, vers le domicile complètement intelligent par le biais de la domotique. Mais si je fais ça, je vais être obligé de faire une seconde chronique et on n'a pas le temps. Bref, je conclurai là-dessus. En un mot, commençant, oui, vous pouvez acheter cet iPhone XS Max, finition gold, avec 512 gigas de stockage. Et si vous ne le faites pas pour vous...
Non, faites-le pour les Palestiniens.
Faites-le au moins pour les Esquimaux.
Pour les
non, 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 j'allais conclure par un « faites-le pour vos enfants », mais on peut aussi parler des enfants palestiniens et des Esquimaux.
Merci, voilà. Daz. On peut l'applaudir.
Merci.
Alors, comme d'habitude...
Chronique criminelle.
Une chronique criminelle cachée sous un gant de velours avec un flot soyeux, évidemment, comme bien toujours. Sûr, une chronique criminelle. Alors, Daz, donc, ton approche, c'est « fuck la low-tech hein », gardons la high-tech, mais surtout, allons encore plus loin et plus vite dans la high-tech, au lieu de garder des appareils... Créons un flot constant d'innovation pour avoir des appareils qui consomment très peu, qui se recyclent au maximum et qui sont refabriqués avec la génération d'avant pour entrer dans un cercle vertueux. Mais c'est quand même de la surconsommation, parce que c'est-à-dire qu'il faut racheter des nouvelles choses tous les ans. Attends, Mélissa voulait dire quelque chose avant que...
Attends.
Qu'est-ce qu'il y a, Daz?
Comme disait un monument de la chanson française, Daft Punk,
oui.
Harder, better, faster, stronger.
J'aime bien quand tu cites des grands penseurs comme Hélène MacArthur et Daft Punk comme ça.
Ils pensaient pas au recyclage, je pense.
Ils pensaient rien.
Ils disaient ça.
Mélissa, vas-y, Mélissa, tu veux dire quelque chose?
Bah non, mais qu'est-ce qu'on en fait de tous ces déchets-là? On est quand même... C'est toute notre question.
À moins que t'aies... Oui, parce que
la pluie vient de tomber.
Tu as mis la planète en colère, Daz.
Non, la planète pleure, j'ai l'impression. La planète est triste.
J'espère que la pluie est salée. Qu'est-ce qu'on fait de ce matin? Non, mais justement,
en fait, j'avais pas pensé.
Non, mais le vrai problème, je suis d'accord avec vous, c'est le recyclage qui est fait quand même, comme on dit dans le 94, à la nique sa mère.
Oui.
Et souvent dans des pays du tiers-monde. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même amorcer la pompe. C'est-à-dire que là, ok, on se regarde tous en se disant, ah là là, c'est quand même pas bien de faire recycler des trucs par des petits enfants indiens qui dessoudent les composants avec les mains dans le produit de soudure et l'acétone et des trucs comme ça. Ok, c'est vrai. Mais en fait, si on continue juste à se dire ça, il n'y a rien qui changera. Ok.
Ok.
Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu as plusieurs téléphones en circulation, tous de générations différentes. Et c'est exactement comme pour le parc automobile. En fait, l'arrivée du nouveau fait qu'il va y avoir un ruissellement.
Ah, c'est le moment macroniste.
Un ruissellement
de
d'appareils vers les couches les plus pauvres de la population. Parce que malheureusement, je peux pas éradiquer les pauvres. Donc, il va falloir composer avec. Sinon, le problème serait déjà réglé. Je veux dire, on aurait tous des iPhone 10 et on n'en parlerait plus. Et là, je vous regarde tous les gens avec un Android. Sachez-le. Du haut de cette estrade, je vous juge.
Donc, selon ta théorie, on peut arriver à des iPhones 100% recyclés.
Oui, parce qu'on est à 95% source Apple.
Oui, source Apple.
Oui, ben bah voilà, il faut bien qu'il y en ait qui disent le chiffre.
Mais la source Apple, c'est un peu comme les Français.
C'est quoi le recyclage en fait? Tu prends un iPhone 10 et 95% de cet iPhone 10, il va me permettre de faire un nouvel iPhone?
Oui.
Non, c'est pas ça.
Et les 5% qui restent, eh ben, tu pollues un peu la planète. Parce que t'as quand même le droit. Non, évidemment, je plaisante. Rémi, il est en train de dire, je coupe le stream. Non, en fait, j'aimerais bien qu'on arrive à ça. C'est-à-dire qu'en fait, t'es des circuits de recyclage qui soient, en fait, liés aux produits que tu comptes recycler. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, pour pouvoir t'acheter un nouvel iPhone, bah, tu rends l'ancien.
Il faut que t'en amènes 10.
Non, mais tu rends l'ancien.
Mais c'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, un iPhone, il est pas, les matériaux de l'iPhone sont pas recyclés pour faire des nouveaux téléphones.
C'est si,
une partie. On prend la coque pour faire, je sais pas, des bouteilles, des t-shirts, des trucs comme
non,
ça.
Non, tu récupères
on prend
de la
le processeur pour faire un autre truc. On utilise vraiment bah, l'iPhone pour refaire de l'iPhone.
Bah, tu les refonds, c'est de l'aluminium. Tu les refonds pour faire.
Mais ça marche pour les écrans, pour le silicium, pour
le cobalt.
C'est pas le propos de la chronique. La chronique, elle disait, si vous achetez des nouveaux téléphones, en gros, ils vont consommer moins. Mais moi,
il faut assainir le parc.
Je suis l'hypercapitaliste de 404. Je peux vous dire que je trouve ça affreux parce que ça, c'est un peu comme si tu prends un mec qui a pas de voiture et tu lui dis, s'il te plaît, achète une voiture hybride. Mais le mec, il a pas de voiture, tu
non,
vois.
C'est ça,
non, mais en fait, le vrai truc, c'est peut-être de pas avoir de téléphone. Enfin, non, mais en vrai, la vraie solution.
Non, mais ça, c'est une solution à la Mélissa, super.
Non,
moi, je suis humain.
Parce que
toi, t'es pour qu'on soit tous contrôlés et puis qu'après,
non,
on soit tous tristes. Parce que tu tiens
vraiment le discours, le discours des marques. C'est-à-dire, vraiment le discours du vendeur de voiture qui te dit, si vous achetez cette voiture, vous allez pas polluer. Mais non! Je vais plus polluer que si j'en ai pas. Vous êtes complètement con.
Fibre, si on parle du fait que quelqu'un a une voiture,
qui en a une, mais d'anciennes générations.
Il peut attendre qu'elle crève et utiliser le bus, parce que le futur c'est le bus.
Oui, mais alors est-ce que le futur c'est un smartphone bus? Je suis pas sûr. Je suis un peu moins sûr du coup.
Peut-être que le futur c'est un smartphone bus.
Si on est 49 sur un smartphone et que chacun doit
son mail téléphonique, était complètement pété, mon pauvre.
Mais non, les smartphones bus.
En fait, je parle évidemment des gens qui sont possesseurs d'un matériel à renouveler. Je parle pas des gens qui n'ont rien à foutre de téléphoner, en fait.
C'est pour ça que tu as évacué la low-tech très vite. Hein. On rappelle, la low-tech, c'est les gens qui ont décidé de se passer la technologie, d'utiliser ce qu'ils ont sous la main pour faire des
fais ton éolienne pour recharger ton smartphone.
Imagine un smartphone avec un écran encre liquide, par exemple, sans couleur.
Oh ouais.
Tu vois, avec un écran de comment on appelle ça, les Kindle, machin. Ça consomme que dalle comme écran.
C'est vrai.
Et si ta vie c'est que faire du Messenger et des mails et que tu regardes pas trop d'images et que tu t'en fous, peut-être des images vectorisées, tu peux les afficher avec de l'encre.
Franchement, mais des stories en encre.
Est-ce que ça
cool.
fonctionne? Ça, c'est
et
du
le jour
low-tech.
Où t'as besoin de voir une photo couleur, tu fais quoi alors?
Eh bah, ben, tu prends l'iPhone bus, qui est un iPhone partagé.
Ouais, c'est l'iPhone de ton immeuble.
Tu prends ton ordinateur.
On a deux doigts d'inventer la cabine téléphonique. Hein, mais c'est,
non, mais sinon, tu peux prendre un écran OLED qui, du coup, a une meilleure facture énergétique, un meilleur bilan énergétique que les écrans LCD. Puisque sur un écran OLED, les pixels les pixels sans couleur sont éteints.
On revient parce que pour les gens qui étaient pas là, c'était le grand débat d'avant que vous arriviez sur la chronique de Daz, qui était Daz. Donc tu te focuses quand même sur le concept d'efficience, dire si le monde entier, 100% des gens étaient équipés d'appareils en général, donc maison domotique, smartphone, appareil photo, même voiture, efficient, globalement on consommerait beaucoup moins, tout serait mieux recyclé. Mais nous on disait, mais surtout tu obligerais les gens à surconsommer tous les ans, non-stop. Et
la surconsommation, c'est une invention du parti communiste, ça. Arrête un petit peu.
Non, mais est-ce que
tu surconsommes quand tu manges 3 fois par jour?
Oui.
Surtout si tu manges 3 fois de la viande 3 fois par jour.
Et tu meurs.
Non, mais votre cause est désespérée, mes pauvres.
tu as parlé de l'amont dans ta chronique, mais tu n'as pas vraiment résolu le problème. Les coûts de production.
Ouais, mais attendez, je suis pas non plus payé pour le faire, les gars. Calmez-vous.
Bah oui, mais si tu défends ta thèse, il faut que tu la défends jusqu'au bout, tu vois.
Vas-y.
Donc, tous les coûts de production qui vont être mobilisés pour créer ces nouveaux appareils, pour créer une nouvelle vague, une nouvelle version, pour que tout le monde les achète.
C'est pas une vague, c'est un flux.
C'est un flux, ouais, c'est un flux.
C'est un flux parce que ça s'arrête jamais,
ouais,
du coup.
C'est pas juste extraire du cobalt et payer des ouvriers chez Foxconn, tu vois. C'est aussi, on l'a dit tout à l'heure, je sais pas combien de litres d'eau pour faire un ordinateur. C'est énormément de rejets de produits chimiques dans l'atmosphère. C'est
des transports à gogo.
C'est des transports, c'est de la livraison, c'est des trucs comme ça. Ça, tu vas le multiplier par 10 avec ton truc.
Et toutes les larmes des gens qui n'ont pas l'argent pour se payer le nouvel iPhone.
C'est après, il y aura évidemment des alternatives pour les pauvres. C'est une république de droite que je propose.
Ah, c'est marrant parce qu'avant que tu le dises, on s'en rendait pas compte.
Non, mais évidemment que tout n'est pas comme ça. Si, je veux dire, si j'avais la solution, je serais pas en train de vous parler. Je serais en hélicoptère, je passerais, je ferais coucou et j'irais au ministère de l'écologie. Bon, bah, c'est pas le cas. Il y a évidemment
des. Aller au ministère de l'écologie en hélicoptère, bon, déjà, je pense
Un hélicoptère, non, mais un hélicoptère, c'est une éolienne, en fait. Tu vois, c'est pas un moteur. Il génère de l'énergie.
Tu produis de l'énergie en y allant, c'est ça?
Voilà, en fait, on te lâche dans la stratosphère et c'est à toi d'essayer de tomber en planant, près du lieu où tu dois te rendre.
Un battle royale, quoi.
Tous les gens qui tiennent un discours écologiste, ils tiennent un discours d'écologiste radical. Ils disent, c'est trop tard, il faut vraiment changer drastiquement les choses, radicalement. Et alors, dire, il faut consommer chaque année, c'est assez radical. Mais je pense qu'effectivement, dire, mon téléphone, il est trop vieux, bah, j'arrête d'en acheter. Ça pourrait être sympa.
Pourquoi pas discours, fibre T'as tourné, quoi, t'as glissé.
Non, c'est pas ça. Mais
tout
moi,
comme non, mais tout comme Daz a glissé.
Finalement, je suis pour l'efficacité. Non, mais je suis vraiment pour la vraie efficacité. Non,
mais justement, c'est ça le truc, c'est que c'est pas efficace d'avoir un smartphone qui a 6 ans. C'est pas efficace.
Alors, il y a un.
Mais donc,
la grande question, c'est un calcul. Est-ce que c'est plus efficace d'avoir un flux continu de technologie efficient, ou est-ce que c'est plus efficace d'avoir un flux non continu de.
En partant du principe vraiment que le sourcing, la fabrication, etc., je veux dire, c'est vraiment un cycle. Où chacun est habitué à prendre son téléphone, le ramener là où il l'a acheté pour avoir la nouvelle version, etc.
C'est un leasing continu de service, en fait.
Un genre de leasing, ouais.
C'est surtout ce principe de pouvoir transformer 100% d'un truc en un nouveau truc. Ouais, ok, là ça fonctionne, mais en fait, ça, si tu veux, ça dépasse les lois de la physique.
Hélène MacArthur,
c'est pas possible, tu vois.
C'est elle qui l'a dit,
c'est pas possible.
Je reviens sur le téléphone bus.
Une dernière intervention sur
téléphone bus. On a fait une émission spéciale mobilité qui a d'ailleurs créé cette émission-là parce que tout le monde vous a dit, eh oh, l'écologie, vous n'y avez pas pensé. Mais on disait, les voitures sont utilisées 5% du temps. J'imagine beaucoup de smartphones qui sont utilisés 5% du temps.
Bah déjà, quand tu dors, tu as 50% du temps, tu l'utilises pas.
Et pourquoi pas faire des Uber du smartphone?
Oui, mais.
Des smartphones.
Mais comment tu le connectes?
Non,
mais comment
ils se déplacent? C'est un problème. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème technologique. Tu dis, tu vas voir des petits génies et tu leur dis, voilà, moi, vous savez, les voitures qui se déplacent toutes seules et qui vont être partagées, je fais la même chose avec des téléphones. Vous vous débrouillez. Et voilà, c'est tout.
Donc, dans les rues, tu auras des trucs qui se baladent pour aller d'un.
Non, mais peut-être que tout le monde aura un device neutre chez lui qui s'allumera que les 5% du temps de la journée que tu en auras besoin. Et c'est tout.
D'accord, mais là, on revient sur la domotique. Donc des choses sont smart et efficientes. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui voudraient réagir à la théorie capillotractée capitaliste de Daz sur...
Il faut penser en dehors de la boîte.
Beaucoup de
choses. Ah oui, alors monsieur là-bas, qui lève la main, ça tombe bien parce qu'on n'a pas pu donner la parole.
Et là, tu sais, tout le monde est d'accord. Genre, non, moi je trouve que ça se tient.
C'est vrai, je l'achète tout de suite.
Bonjour.
C'est très possible. Bonjour monsieur.
Je me demandais dans l'idée de partir vers un bon écologique et via la technologie, pourquoi on se focus sur le hardware? Et pourquoi en fait le hardware ne devrait pas juste devenir l'unité de base où tout le monde aurait... tout à l'heure, j'ai entendu le mot Shadow passer sur scène avant que l'émission commence. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas juste un simple écran connecté, comme c'est déjà le cas à l'heure actuelle, avec des machines virtuelles qui font tourner nos OS, et on récupérait toujours les nouvelles fonctionnalités, etc.
Tu déportes le problème, en fait.
Non, mais en fait,
je déporte le problème, oui et non, parce que tu te retrouverais toujours juste avec un même écran unitaire pour tout le monde.
Mais la dernière technologie...
Ça résoudrait le problème hardware, en tout cas.
Et ça résoudrait ce que Fibre dit, c'est qu'en fait, on aurait des ressources qui seraient optimisées à 100% du temps, parce que quand tu dors, un mec à New York va l'utiliser, etc., etc.
Voilà des solutions.
Pas mal.
Le cloud computing,
mais ça marche que si tu as du réseau.
T'as la fibre.
Si t'as du réseau, ton téléphone s'allume même pas, quoi. Enfin, il n'y a rien sur l'écran, quoi.
Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, tous les objets dont on parle, on parle d'un avenir connecté où de toute façon, ton objet, il est connecté. Donc, effectivement, on revient. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Shadow et le cloud computing, c'est un système où on revient en fait au début de l'informatique. On n'a plus d'ordinateur autonome. On a ce qu'on appelle un terminal. On a un terminal. Et donc, toute la puissance de calcul, la puissance de gestion, elle est gérée par des serveurs distants. Et en fait, elle est gérée à 100% par les serveurs distants qui distribuent cette puissance de calcul à droite à gauche. Donc là, effectivement, ce serait une manière pour toi d'avoir toujours une technologie au top qui sert à 100% du temps, qui est optimisée. C'est pas mal, non ? Il n'y a que ton écran, effectivement, ou ton terminal qui, lui, ne change pas trop, mais ce n'est qu'une partie de la consommation et d'efficience.
Et en fait, on stream.
Mais après, ce n'est pas le sien. Il y a ce problème de relation à la propriété qui est embêtant.
Si, la VM, c'est la tienne, en fait. Mais pour moi, on déporte juste le problème parce que tu vas avoir des data centers qui vont consommer comme pas possible. Si c'est déjà un problème avec les emails, quand tu vas demander de déporter toute la puissance de calcul de tous les smartphones.
Mais non, mais c'est mutualisé. Sur des serveurs partagés.
Mais c'est mutualisé par rapport
Ah oui, non, mais enfin, ça a beau être mutualisé. Si vous avez essayé Shadow, en fait, par exemple, le samedi, là, à cette heure-ci, c'est pas la peine d'essayer, ça fonctionne pas.
Oui, mais c'est des problèmes qui sont quand même
parce
moins.
Parce qu'il y a trop de gens qui veulent se connecter en même temps.
C'est des problèmes qui sont moins insurmontables que le modèle que tu proposes, franchement.
Oui. Tu rigoles ou quoi, la scalabilité d'un truc comme ça? Mais vous êtes cinglé, ma parole.
Bah non.
Moi, je vous propose un truc, on peut le faire demain si on veut. Faut juste que vous achetiez tous des téléphones à 2000 balles. C'est pas compliqué quand même. Faites un effort.
Non, vous savez quoi, dans l'émission mobilité, on a fait le pari des voitures connectées. Moi, je suis des voitures autonomes. Je suis sûr que dans 3 ans, c'est Shadow partout.
Ah ouais?
Moi, je me pose déjà la question sur mon prochain PC. Justement, effectivement, comme dit monsieur, si je veux avoir le top de la puissance, sans me ruiner et à quelque chose. En fait, je gère même plus de savoir ce qui est le plus puissant parce que je sais que j'ai le plus puissant, comme tu dis exactement. Je prends plus la tête à acheter ou à payer. Je paye un leasing, comme tu dis aussi. Et en plus, j'ai quelque chose qui est le plus efficient parce que c'est le top du matériel qui ne me sert pas qu'à moi quand j'utilise pas, mais qui sert à quelqu'un d'autre. Donc,
ouais, mais y a des limites.
Un serveur sert pour peut-être 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes.
Je suis pas sûr.
Est-ce qu'on pourrait avoir des téléphones hyper fins du coup? Juste un écran et.
Ah bah oui, du coup, t'as qu'une technologie d'affichage. Donc en plus, ton écran, est-ce que tu consommes moins en batterie? Enfin, c'est déporté sur le serveur, mais c'est pas. T'as une meilleure efficience, on va dire.
Donc, ça veut dire que pour vous, là, hein, je reformule.
Oui.
Je stream au fil de l'eau. Pour vous, la solution au problème écologique des nouvelles technologies, c'est le cloud computing.
Plus que ce qu'on a aujourd'hui, où chacun a son ordinateur, son téléphone.
Au lieu d'avoir 1 million de téléphones qui lancent 1 million de fois l'application Twitter, tu as un cloud computing qui lance une application Twitter partagée, mais qui gère 1 million de personnes.
Ouais. Bah oui. C'est la beauté du cloud computing, non? C'est la scalability, Daz.
C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, en fait, mais ok.
Bah, au lieu d'avoir.
L'application, elle serait à créer.
Mais non, mais en fait, t'as quand même besoin d'avoir ta session propre.
Oui.
Il y aurait quand même une seule application. On parle d'une application fictive. Je parle pas de l'application Twitter d'aujourd'hui. Mais on parle d'une application fictive qui sera développée, mais c'est fait partie du futur.
Mais en termes de sécurisation des données, de pénétrabilité.
C'est des faux problèmes.
C'est marrant parce que Daz est devenu raisonnable tout d'un coup. Daz a des arguments raisonnables. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le public qui voulaient réagir ou
en tout
pas
cas, c'est une
à cette
idée, j'aime beaucoup ça.
Alors, là-bas, il y a monsieur là-bas.
Qui a un casque de chantier, non? Je ne vois pas bien.
Non, c'est une casquette. C'est comme ça que ça s'appelle ici.
C'est une casquette de la DDE.
Je taquine là.
On rigole, on rigole.
Merci. Bonjour monsieur.
Bonjour. Ouais, effectivement, par rapport au coût de production, je prends effectivement, tu as donné par exemple l'exemple de la voiture hybride. La voiture hybride, il faut savoir que c'est ce qu'il y a de plus polluant comme type de voiture.
C'est vrai.
Voilà. Pour le coup, c'est du vrai greenwashing, la voiture hybride. Et en réalité, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais ce qu'il y a de moins polluant, c'est d'acheter du parc automobile d'occasion à essence. Parce que la production d'un véhicule électrique, c'est la moitié de sa pollution sur sa durée de vie totale. Et c'est la même chose pour ton smartphone ou ce que tu veux, en fait, effectivement, c'est peut-être bien de consommer moins, mais c'est toujours mieux de consommer l'occasion, parce que la grosse partie de la pollution se fait au moment de la production.
Aha. Donc
tu. Well, okay.
Donc l'approche. Là, on est sur une approche sur un débat de la surconsommation, en fait.
J'attendais parfaitement ce genre de remarque.
Et est-ce que tu t'es préparé avec une vraie réponse?
Mais bien sûr, parce qu'encore une fois, déjà, c'est ne pas se projeter dans le système de demain. Ok? Le système, non, on a coupé le micro, tu peux plus répondre. C'est ça la beauté de la dictature. Non, en fait, évidemment, quand j'évoque le truc, je suis dans une utopie totale, et je pars du principe que à terme, si tout le monde joue le jeu, en fait, les coûts de production, puisqu'on recycle 90 ou 95% des terminaux, on va avoir moins besoin d'aller chercher du cobalt, etc. Et puis je parlais aussi de ça dans la deuxième partie de la chronique. Je disais que à terme aussi, on va se rendre compte que l'extraction de minerais, de métaux lourds, etc., on doit passer à autre chose. Et je prenais l'exemple des batteries au graphène qui sont à l'étude en ce moment. qui ont un potentiel en termes d'autonomie qui est assez hallucinant, puisque ça permettrait, il me semble, j'ai plus les chiffres exacts, mais c'était, on parlait en semaines d'autonomie pour un smartphone, pour une batterie qui fonctionne finalement avec du carbone. Le carbone étant le composé qu'on trouve à peu près partout sur Terre. Ouais. Voilà. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que pour en arriver à ce degré-là, il faut à un moment donné qu'il y ait de l'innovation. Et pour pousser l'innovation, il faut qu'on consomme. Et ouais. Si on se met tous à consommer des trucs d'occasion d'il y a 6 ou 7 ans, il n'y a personne, il n'y a aucun industriel qui va en fait se sortir les doigts pour essayer de monter sur autre chose, de passer à autre chose, et puis il va laisser le truc tel qu'il est là. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut faire évidemment un mix des deux.
Faire l'avocat du diable de Daz, est-ce que du coup, votre approche, monsieur, elle est court-termiste ? Je choque un peu, mais est-ce que c'est la plus rentable aujourd'hui, mais qu'effectivement à 20 ans c'est pas la c'est
ah non
pas
mais
la
clairement plus c'est parce que monsieur parle de voir demain, moi je suis complètement dans même après-demain si tu veux. Tu as même assumé le fait que ce soit utopiste ta vision, dans le sens où tu dis oui on va utiliser d'autres matériaux, quoi, tu sais pas, ce sera les terres rares pour la plupart en 2050 il y en a plus, non, mais d'autant plus qu'il y a de plus en plus de gens sur notre planète qui veulent avoir accès à ces technologies. Donc même si tu recycles, au bout d'un moment, il y a un certain nombre de terres rares sur la planète, il y aura de plus en plus de gens qui voudront un smartphone et à un moment, game over.
Parce qu'on reste sur de la terre rare. De la même manière
il y a d'autres choses en fait.
Non mais, parce que, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut continuer avec ce qu'on connaît actuellement. Je pars du principe qu'il y aura potentiellement, de la même manière que
ce que je dis pour le... aimerais pour continuer ton système.
Bah, c'est pas ce que j'aimerais pour continuer mon système. Ce que je dis, c'est qu'en fait, on évolue, on innove. Ok, on est passé de la machine à vapeur au moteur à explosion, au moteur électrique,
au nucléaire et bientôt demain plus rien.
Ah non, mais voilà, mais aussi, mais vous êtes.
Mais c'est la réalité, aussi, les gars. Demain, c'est la réalité, c'est ça. Hein.
Non, ouais. Mais pourquoi ? Enfin, écoute, si tu acceptes d'être irradié, le nucléaire, c'est très bien.
Oui, d'accord, ok, d'accord.
Non, mais voilà, on s'offusque du nucléaire. Pourquoi ? Parce que voilà, il paraît que ça réduit ton niveau
ton espérance de vie.
Ton espérance de vie, mais n'empêche que tu vas vivre les 25 meilleures années.
Je veux dire, c'est quoi la fertilité ? C'est bah, surfait.
À quoi bon ? Et puis avoir 4 bras, c'est quand même quelque chose de super pratique au quotidien. Non, mais je suis d'accord avec toi, bien sûr. Encore une fois, je pense que la solution idéale, elle est à mi-chemin entre ce que moi je propose et ce que toi tu évoques.
Oui.
Okay. Mais j'ai espoir effectivement qu'on se dise, ok, les terres rares, elles sont ce qu'elles sont, rares. Si on augmente la pression pour avoir un appareil qui s'appuie sur ces terres rares, il va fatalement falloir à un moment donné qu'on trouve autre chose pour pouvoir répondre à la demande. Et là, en fait, c'est la main invisible du marché d'Adam Smith que j'évoque. Parce que je peux être communiste et complètement capitaliste.
Comment tu étais communiste, hein, Daz, hein.
Non, mais sur suite à logique, il n'y a qu'à utiliser le nucléaire à fond, parce qu'à un moment, il n'y aura plus de plutonium sur la Terre, donc il faudra trouver autre chose. Mais bon, c'est complètement nul.
Qui voulait se faire sponsoriser par l'Andra, ici?
Mais écoute, c'est une association.
Voilà. On est d'accord qu'il faut... Il faut trouver le juste milieu, mais là c'est une piste, c'est un début de solution. De la même manière que en fait, on parle souvent justement de ce que tu proposes, à savoir la décroissance et l'utilisation de matériaux d'occasion, etc. Je me suis dit que ça serait intéressant d'essayer de voir ce qu'on peut faire de l'autre côté. Voilà.
Après. Oui, évidemment. Si vous ne connaissez pas 404 sous le.
Évidemment.
Sous l'enveloppe du trolling, il y a évidemment un cœur de la sincérité.
Mais bien sûr, une poésie même, j'irais jusqu'à.
Juste pour finir, est-ce qu'on a tous les dernières choses, Sylvain ?
Non, je voulais juste évoquer la stratégie du kamikaze de Daz, qui consiste à épuiser une ressource pour se dire « Ah, on n'en a plus, il va falloir qu'on trouve autre chose. »
On a fait
ça
pour le pétrole.
Et ça, monsieur, ça s'appelle l'innovation.
On a fait ça pour le pétrole et ça fonctionne plutôt pas mal. En tout cas, on se sort les doigts, ok ?
Ah, c'est du beau. C'est sur ces bons mots qu'on va tout de suite, du coup, attaquer la deuxième FAQ. Alors, est-ce que Simon est dans les parages? Parce que Simon nous a posé une question. Simon peut venir prendre le micro que Sam va lui remettre. Bonsoir, Simon.
Alors, moi, ma question, c'était de savoir qu'est-ce qu'on a comme solution pour tout ce qui est réseaux sociaux qui seraient des alternatives relativement écologiques pour, par exemple, YouTube, Facebook et tous ces réseaux qu'on utilise tous les jours.
Alors, à part Ecosia, est-ce qu'aujourd'hui, il existe des alternatives ou vous en connaissez?
Alors, pour YouTube, il y a le Vidéo Club, ça marche vachement bien.
Ben non.
Ben, il y a le caméscope.
Il y a une théorie selon laquelle les outils open source et en pair à pair sont plus efficaces et consomment moins d'énergie que les data centers où tout est centralisé.
Donc BitTorrent.
Pour YouTube, donc voilà, BitTorrent par exemple. Pour YouTube par exemple, il y a PeerTube. Mais après.
PeerTube.
Ouais.
PeerTube. on dirait une chanson avec on dirait un titre avec les pires chansons d'un artiste.
PeerTube. Le problème de ces sites, c'est que une vidéo se stream convenablement si on est suffisamment de personnes à avoir un bout de cette vidéo stocké chez nous. Donc les vidéos pas connues sont illisibles, ça lag à mort, et les vidéos très connues, ça passe quoi.
Donc en gros, tu peux regarder que Despacito sur PeerTube. C'est ça. T'es écologique quand t'es en dépression.
Tu peux regarder que les vidéos qui dépassent le million de vues.
Mais alors du coup, donc, ça c'est pas mal, mais du coup comment ça... Parce que si tu ne peux regarder que des vidéos qui dépassent le million de vues, arrivera un moment où il n'y aura plus de vidéos. Du coup.
Oui, non, mais c'est voilà, c'était pour.
Ok.
Pour évoquer cette chose-là, c'est un début de solution, comme tu dis.
Le pire tout pire toujours, hein.
Le pire tout pire. On y revient. La décentralisation.
Mais Safir, est-ce que vous connaissez des alternatives à des sites qui seraient plus écologiques?
Alors, c'est pas vraiment une alternative, mais effectivement, il faut peut-être ne pas avoir une relation compulsive avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire. Non, mais il y a des gens. Mais les gens pour s'occuper les mains.
La désintox.
Pour s'occuper les mains, au lieu de tripoter quelque chose, eh ben, ils vont sur Twitter. Et en fait, ils ne savent même pas ce qu'ils ont lu. Et si effectivement, ils arrivent à avoir une discipline, bah, forcément, ils consomment moins.
Voilà, acheter un galet et puis mettez-le dans la main toute la journée.
Ouais, un fidget spinner.
Un fidget spinner, le retour des fidget spinners. Mais ça, tu connais un service ou quelque chose en alternative à tout ça?
Non, j'ai pas croisé ça dans, mon, ouais. dans mes recherches.
Bon, comme quoi, on est d'accord.
Parce que l'alternative serait de ne pas y aller, quoi.
Non, mais en y allant. Comment on fait? Est-ce qu'il y a un Facebook écologique?
Chacun son extrémisme.
Oui, oui, je comprends.
Donc, en gros, aujourd'hui, il existe encore très peu d'offres, on va dire, ou d'alternatives viables.
Mais en fait, c'est juste sur le principe même du fonctionnement. C'est-à-dire qu'effectivement, on essaie de. Enfin, quand on dit viable, c'est on retire la notion de data center, de centralisation des données.
On réduit ton empreinte carbone et énergétique, par exemple.
À la place de YouTube où tu as la vidéo. Ouais. Ça serait un truc où tu as genre un synopsis, le script.
Ça serait la page la plus légère.
En fait, c'est juste le scénar, tu vois, que t'as, et puis tu tournes les pages, et là,
ouais, mais tu dirais quand même des
Et là, je mets
les cookies
dans le
fin,
four, je mets à 350 degrés, ah, mon four brûle, tu vois, et plutôt que de regarder Enjoy Phoenix cramer sa maison.
Non, mais en vrai, il est pas bête, là. Il a une bonne solution.
De l'audio, enfin, l'audio du transcript.
Non, mais pour le podcast, par exemple, on télécharge juste le texte, et c'est une voix synthétique qui recrée le podcast. Franchement, c'est
ça crée de la puissance de calcul.
Non, parce que c'est en local. La voix, elle est chez toi.
Oui, bah déjà, voilà, abandonner YouTube, écouter plus de podcasts, première chose. Ça, c'est déjà, c'est pas mal. Mais effectivement, on n'a pas beaucoup de solutions. Si, on le disait, Slack, qu'on utilise beaucoup dans l'équipe, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'utilisent aussi, et aujourd'hui, donc des outils de messagerie qu'on se crée en interne, en entreprise ou entre amis, consommeraient beaucoup moins que des mails. Et c'est vrai que nous, depuis qu'on a Slack, on envoie des mails très rarement ou en cas de grosse urgence.
Sauf que Slack, c'est sur du data center, bien évidemment, que ça fonctionne aujourd'hui.
Oui, mais ça consomme moins. Encore une fois, c'est une alternative aux mails.
Est-ce que ça nous fait pas nous envoyer beaucoup plus de messages inutiles aussi?
C'est possible.
Clairement. Avec des petits gifs.
Il n'y a pas de solution à cette FAQ. C'est l'heure de passer tout de suite à la troisième FAQ. Nous partons de l'autre côté du monde avec monsieur Fibre Tigre qui a repéré quelque chose au large de l'océan Pacifique.
Un continent de plastique flotte à l'horizon. Nous l'abordons avec des solutions.
Oh là là, Sam Lejiga, on peut applaudir encore Sam, c'est incroyable. Elle apparaît, elle disparaît. Et Fibre, tu prends le relais.
À la réunion 404, où on a déterminé les chroniques, l'âme a déclaré « Bon, ben, il faudrait trouver des solutions pour le continent de plastique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est motivé ?» Alors, moi, j'ai levé la main, parce que j'étais le seul à pas avoir de sujet et qu'il restait plus que 5 minutes. L'âme m'a tapé dans le dos, il m'a dit « C'est bien, mon petit gars. D'ailleurs, si dans la foulée, tu pouvais trouver une solution au conflit israélo-palestinien, finalement, c'est Daz qui s'y est mis. À Trump ou au réchauffement climatique, si t'as un peu de temps, te gêne pas. » Alors, je vais pas dans cette chronique vous expliquer comment régler le problème du continent de plastique, parce qu'il y a des tas de gens très compétents, dont Surfrider, qui est ici, qui d'ailleurs lance son app aujourd'hui, je le répète, un petit peu de pub. Il travaille nuit et jour.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Sur le sujet, alors moi je découvre donc. Cependant, je vais quand même vous lister quelques petits projets qui sont en cours. Comme je m'y connais pas trop, je cite peut-être les mauvais projets. On
trira un petit peu. Quel est ce continent de...
J'en parlerai dans deux minutes. Mais okay. Je cite d'abord les petits projets. Vous savez qu'il y a un continent de plastique quelque part. J'en parle dans deux minutes, mais il y a des projets en tout cas qui veulent le contrer. Donc il y a le Junk Raft Project. C'est juste pour les étudier. Donc des bateaux qui vont voir et qui étudient. Non, mais il faut d'abord.
Tu as tellement bien hypé ce projet.
Non, mais il faut d'abord comprendre ce que c'est. Tu vois, par exemple, il y a deux bateaux qui s'appellent le Kaizei. Encore les japonais, et New Horizon, qui sont aussi qui sont allés étudier pour voir s'il n'y a pas une exploitation commerciale à faire du continent de plastique. Il y a le projet Stiplex qui étudie qu'est-ce qui se passe aux pauvres petits poissons qui mangent des plastiques. Et également, alors il y a, ça a été très médiatisé, c'est passé dans des TEDx, il y a un certain Bojan Slats qui a lancé un projet qui s'appelle l'Ocean Cleanup, qui utilise la force des courants marins pour dévier les plastiques dérivants et les récupérer dans des endroits particuliers. Ensuite, j'en parlerai tout à l'heure, il y a la P-Pod, donc P plus loin Pod, qui est une sorte de, bon, c'est un peu, c'est pas très sympa, mais c'est une poubelle des mers. Donc en gros, qui absorbe le plastique, voilà, et qui le concentre autour dans son device en quelque sorte. La fondation Abundancy. Et enfin, pour qu'on soit tous très au courant qu'il y a un continent de plastique qui existe, il y a aussi des projets artistiques. Et le projet le plus connu, c'est un projet qui est fait par l'UNESCO, enfin qui est fait auprès de l'UNESCO, et qui s'appelle le Garbage Patch State, donc l'état du continent de plastique. Donc des choses qui sont faites en plastique, avec le continent de plastique. Bon, c'est dans cette chronique, je ne vais pas vous parler de tout ça, parce que je ne m'y connais pas. On va proposer encore une fois des solutions 404, c'est-à-dire des solutions qui utilisent le numérique et nos comportements. Donc d'abord, effectivement, je vais décrire ce que c'est que le continent de plastique, qui a un nom un peu plus, même badass, je trouve, sur Wikipédia. Ils appellent ça le vortex de déchets du Pacifique Nord.
C'est le vrai nom, hein.
Alors, c'est pas vraiment une terre ferme de bidons et de sacs, sinon ça ferait longtemps que je serais parti vivre là-bas, loin de BFM TV et des impôts. J'aurais ma petite maison, voilà. C'est une vaste soupe de grumeaux de plastique qui erre de l'est à l'ouest du Pacifique avec deux petits noyaux d'accrétion sur les bords. Il y a du plastique partout, surtout en microparticules, et ça reste en travers de la gorge de tout ce qui est vivant, donc c'est ultra moche et c'est de notre faute. Donc, voici 5, en fait, je crois qu'il y en a 6 ou 7 maintenant depuis parce qu'on a dû refaire les chroniques dans l'après-midi. Que nous vous proposons pour lutter contre le continent de plastique? Tout d'abord, il faut être au courant que ce continent, il existe. Donc c'est le projet Raise Awareness. Donc aujourd'hui, le continent de plastique, c'est un concept. C'est un truc lointain et vague. On ne sait pas où c'est vraiment. Et le nom, il est presque cool. Tu vois, plastique, ça rime avec fantastique. Moi, je voudrais un nom qui fait mal, tu vois. Genre le pays de la honte. Le pays Nike. Le pays sac Carrefour. Le pays de la mort. Tu vois. Et donc déjà, tu vois, vous êtes déjà allé au pays de la mort, quoi. Il y a le pays de la mort, ça existe, tu vois. Donc c'est vraiment... Et ensuite, c'est très important, il faut le localiser. Quand j'ouvre Google Maps, bah, une terre pourrait apparaître au large de San Francisco. Quand je vole en avion, sur la petite carte là, que tout le monde regarde pendant des heures où est-ce qu'on est, bah, on pourrait voir une espèce de masse qui apparaît dans l'océan Pacifique. Dans les livres de géographie, le continent pourrait apparaître. Donc ce continent, paradoxalement, il existe que dans la réalité.
Oui.
Et donc, est-ce qu'il existe vraiment, s'il est que réel aujourd'hui? Et non, il faut aussi qu'il soit sur nos cartes virtuelles qu'on consulte tous les jours et lui donner un nom. Donc ça, je vous laisserai voter pour le nom qui vous semble le mieux. On fera des t-shirts ensuite, on ouvre une boutique bientôt. Donc ensuite, on s'attaque façon Sleeping Giant au père fondateur du pays des animaux qui crèvent. Donc il y aura plein de... Grâce à un stream live 24/24. Donc l'idée, c'est on place dans le courant du Pacifique une balise dérivante avec une caméra qui twitch le désastre. Donc des collines de pots de yaourt Danone, des rivières de couches Pampers, des métropoles de bouteilles de Coca-Cola en plastique. À chaque image, un tweet qui attaque la marque. Mais attendez, Danone, qu'est-ce que c'est cette colline de pots de yaourt? Un mème qui devient viral, qui oblige l'entreprise à insister encore sur la politique d'abandon du plastique. Écoutez, oui, ok, cette colline, elle est à nous, on va l'enlever et on fera mieux. Voilà, c'est un peu pour leur mettre la pression. On pourrait faire, alors ça c'est un petit peu mon point, je sais, ils aiment pas trop ça, je vais en parler, faire du continent de plastique, donc le continent de la mort, une niche fiscale numérique. C'est-à-dire qu'en Europe, quand vous faites une œuvre numérique, comme un jeu vidéo...
Au hasard.
Voilà, je m'y connais. Hein. Donc, vous pouvez avoir une subvention ou un crédit d'impôt. Crédit d'impôt, ça plaît bien aux entrepreneurs. Et en gros, pour avoir le crédit, il faut avoir une note de 12 sur 20 sur un barème. Et si vous parlez de l'Europe, ben, vous avez déjà 4 points. Ben, là, on pourrait faire en dire, ben, si vous parlez du continent de plastique, vous avez 4 points. Imaginez un Fortnite sur le continent de plastique. Ben, vous avez déjà 1 million de petits jeunes qui savent qu'il y a un truc qui s'appelle le continent de plastique, tout d'un coup. Voilà. Donc ensuite, alors petite idée que je trouve super chouette de l'âme, on va dire. Voilà. Des pipodes, souvenez-vous, les petites poubelles, ou des drones qui ramassent le plastique, mais qui disposent de community managers. Comme pour Philae, vous vous souvenez? qui la mort de Phil Ike qu'on a eu en direct sur Twitter. Ben là, c'est des community managers qui racontent, ils prennent la parole des petites poubelles de la mer et qui racontent l'épopée du nettoyage des océans. Des milliers de tweets qui lisent les mots « le plastique m'étouffe ». Je suis si seul à nettoyer les océans pour que notre belle planète puisse à nouveau être bleue et pure. RT si tu es triste. Et dès qu'on a 30 000 RT, tu fais un petit tweet. Bon, bah, puisque j'ai percé, voici le lien vers le Tipeee de la Fondation Sambrader. Tu vois? Donc, ça, évidemment, ça pourrait être cool.
Également. C'est pas mon idée, hein.
J'ai proposé, oui, j'ai interprété.
Ouais, comme
d'habitude. Utiliser Pokémon Go pour nettoyer les plages. Alors, on crée un Pokémon unique, plastique, je l'ai appelé, en forme de tic, qui n'apparaît que sur les plages asiatiques, parce que c'est elles qui ont un problème. Envahi par parce que les plastiques du continent, ils dérivent, ils arrivent sur les plages. Vous avez tous vu Koh-Lanta ou The Island, les gens ne nettoient pas. Par contre, ils font des émissions là-bas. Mais là, il y a un Pokémon qui est que là-bas, ok? Parce qu'il y a quand même, enfin, je veux dire, il y a des millions et des millions de joueurs de Pokémon. Les gens qui le capturent, ils ont droit à un petit message. Bon, puisque vous êtes là, nettoyez un peu autour de vous quand même. Donc, c'est seulement un joueur actif sur 1000 est concerné. Cela ajoute 10 000 nettoyeurs au compteur, quand même. Et sinon, j'ai proposé de prendre ce contenant de plastique et, suivant ce que vient de dire Daz, on en fait des iPhones. Alors, on fait en sorte que le top du top de la mode soit des produits technologiques en plastique, mais pas n'importe quel plastique. Le plastique issu à 100% du continent de la mort.
C'est le nouveau place to be, quoi.
Alors, ça existe un petit peu déjà. Donc, j'ai fait une petite liste comme ça. Vous pouvez noter, vous pouvez acheter écolo. Donc, les produits Patagonia sont en polyester, enfin certains, sont en polyester recyclé. Ils viennent de bouteilles plastiques qui, parfois, sont dans les océans. C'est pas tout à fait... Vous savez, les écolos, c'est un peu comme les intégristes. Hein. « Ouais, ça n'est pas des intégristes !» Bon, on n'est jamais hyper orthodoxe dans le geste écologique. Donc, je suis un peu prudent. Mais c'est quand même des initiatives écologiques.
Je suis content que t'aies comparé les écolos à des intégristes oui, dans cet endroit.
Oui, de toute façon...
Histoire qu'on se mette vraiment définitivement bien avec tout le monde.
Non, mais c'est comme ça que les gens vont écouter 415. Ils vont dire « Ah, c'est con, ils sont anti-écolos !» Bon, bref. Sinon, il y a Parley, comme Sylvain Parley, mais avec un R. Donc, merci. C'est une initiative pro-océan qui a collaboré avec Soma pour faire des bouteilles
ouais.
et Adidas pour faire des chaussures. Voilà. Ouais. Donc, ils prennent le plastique des océans, ils en font des chaussures. Daz vous en parlera plus. Sinon, il y a un truc que les gens font beaucoup, parce que c'est un peu un truc de hipster, les lunettes. Alors, si tout si, donc si comme voir, tout comme le chiffre 2 et si comme la mer. Donc, lunettes qui sont faites en filet de pêche récupérée. Il y a aussi vendu à 98 euros, c'est très cher, à Surfrider quand même. Et les lunettes Friendly Frenchie. Il y a aussi les Norton Point, pareil. Il y a des skateboards en plastique recyclé qui s'appellent Bureo. Ça fleure bon.
Ça fleure bon 404.
Bon, les trucs en néo, voilà. Toujours en filet de pêche. Ensuite, alors, il y a une société qui s'appelle Gistaro. Non, je plaisante parce que c'est tout à l'heure. Gistaro. Qui a créé une marque Row for the Oceans, il y a un jeu de mots, bon voilà, qui récupère un petit peu de plastique des océans et qui en fait des vêtements. Et enfin, Unify, qui fait des collabs notamment avec H&M. Donc Unify, ils prennent des plastiques et ils en font des textiles en quelque sorte. Et ils ont une petite tagline que j'aime beaucoup. True innovation starts in the fiber.
Ah, ça démarre dans la fibre. On peut appeler la fibre tire.
Non, c'est pas terminé.
Excusez-moi.
S'il vous plaît.
Pardon.
Non, mais c'est parce que là j'ai fait un petit, j'ai un peu dit ce qu'il fallait. Mais l'idée c'est que c'est non seulement que ça existe, mais que les stars, les youtubeurs, les influents ne jurent que par ça, parce que comment dire, déjà le prix va augmenter, ça va devenir rare et précieux. On va et si c'est cher. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire « Ouh là là, il faut que je fasse ça, donc ça va se nettoyer d'autant plus vite. » Et comme ça coûte cher, ben les gens vont peut-être moins le jeter. Donc ça va moins retourner à la mer. Voilà. Donc j'ai proposé, mais je pense qu'ils le font déjà à Surfrider, de faire des planches 100% plastique tirées des océans. Et je demande aux gens ici présents, vous, qu'est-ce que vous feriez comme produit, et si vous avez aussi des idées, des produits en plastique tirés des océans.
Très voilà. Bien. Maintenant, on peut applaudir Fibre Tigre. Merci. Alors, on rappelle, le continent de plastique est l'endroit où tu rêverais de vivre, évidemment, pour échapper aux impôts. Le continent de plastique, c'est quelque chose d'immense. Donc, c'est de la taille d'une région, d'un département. Ça flotte.
Ah, non, oulala.
Oh, non, c'est même d'un grand pays.
C'est la taille des États-Unis.
Les États-Unis, t'es sûr?
En fait, il y a un gros bloc côté asiatique, un gros bloc côté États-Unis, et ça passe de l'un à l'autre. Et
c'est
après,
5 continents la taille, c'est ça?
Dis-moi.
Ah, il y a 5 continents.
Ouais. Bon, il y a 5 continents.
Bah, et donc c'est, un, c'est une vraie map monde de la pollution.
C'est énorme. Et justement, c'est pour ça que quand on regarde Google Maps et qu'on voit ce beau océan Pacifique tout bleu, non, en fait, il n'est pas tout bleu. Voilà.
Ouais, donc là, c'était une de tes propositions de représenter aussi, via ce que nous, on voit le plus aujourd'hui, donc ce n'est pas la réalité, mais c'est sur les cartes, ce continent de plastique. Donc ce continent de plastique, il est gigantesque. Il est aujourd'hui... Il y a des initiatives, mais c'est impossible de s'en débarrasser aujourd'hui à la vitesse où il se remplit, où il s'agrandit par rapport à la vitesse où on essaie de le désemplir ou le vider, c'est ça? Et donc, il faut mettre en place des grosses initiatives pour s'y attaquer. Tu en as cité quelques-unes des farfelues et des plus plausibles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, mes chers collègues, par rapport à, déjà, un, ce continent de la mort des animaux qui meurent, et deux, par rapport à la manière dont on va procéder avec le progrès et les technologies pour s'en débarrasser?
Moi, je suis persuadé que pour se débarrasser de ce continent, il faut moins traiter les conséquences, ce que tu as beaucoup évoqué, c'est-à-dire comment le nettoyer, que les causes qui sont pourquoi on produit autant de plastique, pourquoi on boit dans des bouteilles d'eau, pourquoi on mange des yaourts.
Pourquoi les pailles sont en plastique? Ah.
Je suis en campagne 2020.
Palais 2022, on vous le rappelle.
Ouais, mais c'est facile, c'était pas la chronique. Hein.
Non, mais c'est intéressant de voir comment la mais tu l'as évoqué en foutant la pression, par exemple, aux entreprises.
Là, c'est la fameuse méthode des sleeping giants dont on a parlé.
C'est donc ça, le soft power. Mais effectivement, la technologie pourrait aussi nous aider à soit augmenter la sensibilisation à ça, donc le raise awareness dont tu parlais, mais aussi peut-être à punir les entreprises qui le font.
Autrement que par des sleeping giants, ouais. Du coup. Est-ce que vous connaissiez ou pas, Daz et Mélissa, le continent de la mort? Non, c'est quoi le vortex de plastique?
Vortex de plastique, non, mais ce serait bien de... Peut-être on pourrait trouver d'ailleurs ce soir un nom vraiment qui claque, oui. Qui soit méchant et qui lui donne une réalité.
Moi, j'aime
et...
bien celui des animaux qui crèvent la gueule ouverte.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Il est bien sale.
Oui. Daz et Mélissa, vous connaissez ce continent?
Chaque année, on pourrait donner le nom, le continent Danone qui tue les animaux, voilà.
Ah ouais. Bam. Ah ouais, mettre les marques qui y participent le plus.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ça serait pas mal. Oui, je connaissais justement par le biais des initiatives comme celle de Surfrider ou de Parler notamment, que je trouve assez louable. Mais effectivement, donc le continent plastique, là je rejoins Sylvain, il y a cause et conséquence. Mais même dans les conséquences, il y a la partie, le continent flottant en lui-même qu'il faut évidemment traiter. Mais je trouve que l'idée des Pokémon super rares sur les plages thaïlandaises et indonésiennes, c'est une pure
idée,
en fait.
Est-ce qu'ils enlèveraient le plastique, du coup, en allant chercher le Pokémon? Il y a un petit message. Il y a un petit doute, hein, quand même.
Il y a un petit message. Bah, peut-être que les gens, ils se retrouveraient quand même sur une plage dégueulasse après avoir fait 10 000 km.
Je pense qu'ils s'en foutraient.
Non, mais ça vaut ça. Dans le pire cas, ça le montre.
Déjà, je pense que tu fais 10 000 bandes pour échoper un Pokémon. Déjà, tu. Ouais. D'un point de vue motivation, tu poses là.
T'as pas vu bilan carbone.
Mais 10 000 km en radeau.
Oui, il faudrait qu'il paye l'empreinte carbone.
C'est vrai que sur les plages, il y a déjà des petits panneaux comme ça qui commencent à émerger, qui dit, bah, vous visitez cette plage, prenez 5 déchets avec vous et mettez-le à la poubelle.
Il y a aussi beaucoup d'initiatives de gens qui font aujourd'hui dans les rues et au bord des plages des battues. En fait, ils arrivent par 10, par 100 pour essayer de nettoyer les plages. C'est évidemment un combat d'aller contre Goliath. Mais
je pense qu'il y a une vraie... en tout cas, moi, j'ai été surpris parce que, OK, le continent de plastique, c'est une chose et j'arrivais à modéliser un peu le truc dans mon esprit. Par contre, effectivement, la conséquence sur les plages, notamment thaïlandaises...
Et sur toute la faune aussi.
Mais ce que je veux dire, c'est que même visuellement, en fait, j'ai été surpris parce que tu parlais de Koh Lanta, mais c'est pas dans Koh Lanta qu'on le voit.
C'est
dans
The
Island. Voilà, aussi sur Koh Lanta, il s'arrange justement pour être dans des endroits paradisiaques où, en fait, tu vois rien.
Ouais.
Et c'est The Island où les gars, ils sont vraiment sur une île où tu te dis putain, et cette île, elle est déserte, en fait.
Et souvent, sur The Island, ils survivent en récupérant des déchets. Ouais.
En plus, les mecs, ils disent oh là là, c'est sale, tout ça, ils font rien. Genre, on n'est pas au courant, et après, ils se barrent, et voilà. Super.
C'est du beau. Mélissa, tu connaissais le continent du vortex de l'enfer?
Je voyais les images de plages remplies de plastique, mais je voyais pas du tout.
Tu n'as pas vu.
Mais il n'existe pas. Mais j'avais pas entendu le terme si souvent. Quoi.
Est-ce qu'on a vu beaucoup Est-ce qu'on a vu tant de ça des images, justement, comme tu dis, filmé avec des drones, des hélicoptères pour montrer l'étendue infinie du truc.
C'est-à-dire que on était sur le continent de plastique, tu verrais de l'eau, tu verrais des sacs plastiques.
Ouais.
T'en verrais une certaine densité, mais pas. Enfin, tu verrais parfois des accrétions, genre de 10 mètres carrés. Mais en gros, c'est. Imagine la France qui a 3 sacs plastiques par mètre carré.
D'accord.
Voilà.
Ok. Oui, donc on n'est pas sur le fantasme d'une sorte d'iceberg de plastique solide et très dense.
Et sinon, si c'était ça, c'est comme la fameuse photo de l'ours polaire qui est tout seul sur son iceberg. Ah, le réchauffement climatique, l'ours va mourir. Si on avait des photos choc comme ça, on pourrait le voir. Mais là, Je pense que ça existe pas encore. Il y en a quelques-unes, mais
peut-être on les a pas vues, quoi.
Il faut le rendre spectaculaire, en fait,
voilà.
Ce truc.
Il faut marquer les esprits.
Ah, c'est le marketing écologique d'une certaine manière. Du coup, je reviens juste sur mon idée. Mon idée, c'était pas d'avoir des filets. C'était de dire à des gens de sponsoriser, comme on achète des animaux à distance ou on achète une plante à distance, d'acheter un petit récupérateur à distance qui porte ton nom, qui te permet de faire du...
Si t'avais une petite poubelle qui tweetait en disant « je suis en train de mourir », je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui disent « oh, elle va mourir et tout ».
Mais si elle disait en plus « j'ai été financé par Fibre Tigre », est-ce que tu pourrais pas sortir ton e-pénis et dire « c'est de moi ». Et du coup, on aurait peut-être des millions de personnes qui financeraient toutes ces petites poubelles. Mais encore une fois, comme l'écrit dans Public Blondie, le problème, c'est évidemment... la solution, c'est pas évidemment de nettoyer au mieux ce continent, c'est de moins polluer. Mais là, dans l'immédiat, il faut quand même le nettoyer à un moment avec les solutions. Est-ce que, du coup, Fibre, vous invitez, vous, le public, à essayer de trouver des solutions, notamment en utilisant la technologie, la gamification, des choses comme ça, pour arriver à nettoyer 5 continents de la taille d'un pays qui, quand même, se balade au milieu de l'océan, ce qui n'est pas rien. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient ou des suggestions ou une observation par rapport à ce que Fibre a pu dire sur ce continent du vortex de la mort qui fait mourir la gueule ouverte.
Des animaux qui crèvent.
Les gens sont plus... je crois qu'il y a plus de timidité, la Fibre. Ah, il y a une main qui se lève ici.
Non, bonsoir. Bonsoir. C'est juste une question. Il n'y a pas de photos satellites par rapport à ça. Alors, comment il est localisé vraiment?
Ah ben là, effectivement, là, la question de ça, on retombe dans ton problème. C'est qu'il y a... Il n'y a pas de,
non.
Il n'y a pas vraiment de visage clair à ce continent
en
plastique.
En fait, je pense que c'est des densités de plastique qui sont dans les courants. C'est beaucoup lié au courant. D'ailleurs, la solution vient partiellement aujourd'hui, une des solutions prometteuses, d'après ce que j'ai compris, je suis pas un expert, c'est justement d'utiliser les courants, pour canaliser les flux de plastique. Et je me trompe peut-être encore, mais on raisonne en, on nettoie des courants. C'est-à-dire, tu nettoies pas des zones, mais tu nettoies, tu dis, bon, ce courant-là qui va de là à là, on va le nettoyer et ce sera terminé avec celui-là. Voilà.
Mais de toute façon, il est aussi en surface, non ? Il y a beaucoup aussi...
Il est en surface, mais comme il y a peu de densité, vu du ciel, ce n'est pas flagrant. Voilà. Sauf si... Non, il y a des questions, il y a des remarques. Surfrider va me...
Je vois deux mecs qui sont levés.
J'ai vu des photos d'accrétion, mais j'ai pas vu des photos satellites claires.
Et du coup, comme tu disais, c'est un des problèmes, c'est qu'on est dans une époque où si ça n'existe pas sur nos écrans, en fait, c'est pas palpable, en fait.
Je voulais juste préciser. Bonsoir. Donc moi, je m'appelle Christina, je travaille à Surfrider. Donc,
très bien.
On m'a mis beaucoup la pression pour que je parle, puisqu'il y a eu pas mal de choses qui ont été abordées qui sont pas forcément toujours exactes. Mais
normal, c'est une chronique de Fibre Tigre.
Voilà. Non, je suis sûre que tu fais ça très bien d'habitude, hein, mais là, il y avait des choses qui t'échappent un peu.
La passif-agressive fond des chaînes.
Juste pour revenir sur le continent de plastique, en fait, c'est effectivement ce que tu disais, c'est créé par les courants. En fait, il y a ce qui s'appelle la force de Coriolis, qui est la force de la Terre, en fait, qui crée des courants tourbillonnants. Donc, c'est comme ça qu'en fait, les déchets se retrouvent piégés. Et il y en a effectivement un dans le Pacifique, mais partout où il y a ces courants tourbillonnants, il y en a également. Donc, on en a identifié aujourd'hui plus de 5, mais il y en a également en Méditerranée, au large du golfe de Gascogne. Enfin, ça se passe vraiment plus près que chez nous que ce qu'on pense, en fait.
D'accord.
Parce qu'il faut savoir que le pire ennemi du plastique, c'est le soleil. Donc, à partir du moment où il y a du soleil, ça va se fragmenter et ça va créer des soupes plastiques. Donc, ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, donc c'est juste pour préciser ça. Et je ne peux pas vous laisser dire que la solution, c'est de nettoyer les océans. C'est vraiment pas ça. Il faudra le faire un jour, mais surtout, il faut surtout pas le polluer. Il faut vraiment fermer le robinet. Donc je voulais juste préciser ça.
C'est tout à fait juste. Après, ma mission qui m'a été confiée, c'est Fibre. Il y a un continent de plastique dans le Pacifique Nord, faut le nettoyer. Voilà. Donc j'ai essayé de répondre à la question. Hein.
C'est tout à fait louable. Et moi, j'ai reçu 28 textos pendant ta chronique disant, on peut pas le laisser dire ça. Donc je défends comme je peux, mais je comprends très bien ce que vous essayez de faire et c'est très bien.
Ah là 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 là.
J'ai une fun fact sur les courants de Coriolis. Ils tournent dans un certain sens dans l'hémisphère nord,
c'est tous, faux.
Et
c'est
dans
faux.
Un autre sens sur l'hémisphère sud.
C'est faux.
Ah bon?
Ouais.
Ah bon?
C'est faux. Bon ben voilà. Merci pour le fun fact, Sylvain. Sylvain parlait.
Je me suis fact checké par Daz.
Non, c'est faux. C'est le même sens partout.
Non.
Quand ça tourne dans l'autre sens, c'est parce que la matière de la cuvette des chiottes, parce que c'est dans la cuvette des chiottes qu'on le remarque, ou dans un lavabo.
Ah oui.
Crée des micro turbulences en fait.
Non, je refact et je dis que non. Daz, t'as tort.
On fait dit que j'ai raison et on ira sur Wikipédia.
Mais si on avait des éviers parfaits, parfaitement sphériques, c'est théorique, dans ce cas-là, il y aurait un sens au nord, un sens au sud.
Je crois qu'on dévie, mais ok.
Pas du tout.
Il y a plein de questions.
Oui, il y a une autre... Alors, j'aurais voulu qu'on réagisse sur la présence d'observation, mais on va tout faire en même temps. Bonsoir.
Bonsoir, donc moi je suis Marion, je travaille aussi à Surfrider.
Putain, Surfrider, tu les as sur le dos la fibre. Ouais, hein. Ouais.
C'est pas grave,
ils sont contents de nous avoir invités.
Voilà. J'adore votre émission, mais c'est pareil, il y a un truc que j'aimerais juste dire, donc désolé de t'embêter.
Pas de problème.
Mais sur la question du plastique, en fait, qui est dans l'océan, le plastique va être altéré par les UV et par les sels marins, donc c'est très compliqué de reprendre ce plastique-là et de le rendre recyclable et de reproduire des objets à partir de ce plastique-là. Donc ça, c'est la première des choses pour bien comprendre. Et la seconde, si on arrive à le faire avec la technologie, il faut le récupérer, le transporter, le remettre dans des usines pour refabriquer des objets à usage unique, donc ça n'a pas beaucoup de sens.
Voilà. Donc en fait, l'empreinte, justement, comme on parlait de la fameuse empreinte carbone, et tout le process pour
le
recycler va coûter plus cher que de le laisser là, en fait, d'une certaine manière.
Et on ne sait même pas si on peut le recycler parce qu'il a été altéré par les UV et le sel marin.
Est-ce qu'il ne faudrait pas dessaler la mer?
Peut-être. Non, mais voilà, merci
parce que l'émission est super. Chaque minute plus content de nous avoir invités.
Excusez-moi, quand tu travailles avec Adidas, c'est pas bien, c'est pas une bonne initiative.
Non, mais c'est pas ce plastique-là.
C'est pas ce plastique-là.
Bah, si, c'est le plastique
non,
des océans.
Non, mais c'est pas le plastique.
C'est le plastique qui est au bord des océans, c'est pas celui qui a tourné. Là, on parle d'un plastique qui est en haute mer, sous le soleil tapant et sous le sel depuis des semaines et des semaines.
Et sous forme de microparticules aussi.
De microparticules dont on parlait, qui est devenue la fameuse soupe de plastique. Qui est ingéré d'ailleurs par
les tortues de mer.
Les tortues de mer.
Et les poissons.
Et les poissons. Est-ce qu'il y a une autre personne de Surfrider Foundation
qui aurait reçu des textos?
Mais non, mais ce qui est bien, c'est que en venant ici, on a amené 404, mais on a amené aussi des gens qui sont assez naïfs, j'ai envie de dire, sur l'écologie.
Notre inculture, même.
Qui s'y connaissent.
Notre inculture.
Pour une fois qu'on a des experts pour fact-checker Fibre, je suis ravi.
Monsieur voudrait prendre la parole. Je pensais que c'est Das qui allait plus se faire allumer. Un monsieur qui a su Surfrider Foundation.
C'est encore Surfrider, donc Florent Marco de Surfrider.
Ne vous excusez pas.
Non. Ah ben on va vous donner un bâton direct, si vous voulez taper fils, ça ira plus vite.
Non, une petite remarque, une autre observation, toujours sur Parlay. Oui, effectivement, Parlay travaille ou fait des choses, notamment avec Adidas, à partir de matières plastiques retrouvées dans les océans et recyclées. D'accord. Ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ce sont des productions généralement très limitées, très petites. Le passage à l'échelle, pour l'instant, on ne le voit pas. Et la technologie, à notre avis, ne le permet pas. On ne peut remettre qu'un tout petit pourcentage de ces plastiques recyclés. Et ensuite, c'est du plastique normal produit. Donc, et la deuxième chose, c'est que l'impact réellement environnemental, il n'a pas été mesuré. Donc, le sortir, il y a un impact social possible, parce que ce sont des bénévoles, généralement, comme ceux de Surfrider ou d'autres organisations qui sont sur les plages, qui sont dans l'océan, qui font des collectes et qui, sans s'en rendre compte, parfois fournissent cette matière qui devient la matière première pour un nouveau business. Donc, ça pose des problèmes à la fois au niveau social et au niveau environnemental. On n'a pas démontré la plus-value environnementale. Peut-être qu'elle est là, mais nous, pour le moment, on reste un petit peu sceptiques.
Et peut-être qu'il y a du greenwashing aussi.
C'est à peu près sûr, je pense. C'est ce qu'il voulait dire, je
pense. Monsieur a dit, voilà, on se prend la main, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de dire.
Et on va faire des études complémentaires pour essayer d'apporter éventuellement des vraies connaissances. Et la deuxième chose, juste complément que je voulais faire en lien avec les déchets plastiques, avec ces continents, c'est que 70% des déchets qu'on retrouve dans l'océan, en fait, ils coulent. Donc ces déchets plastiques que vous retrouvez dans les gires, là, dans ces continents, c'est qu'une petite partie de la pollution de ces déchets. Et en plus, c'est ceux qu'on continue à voir à l'œil nu, mais effectivement, comme le rappelait Christina, ils se fragmentent, c'est qu'ils deviennent tout petits, entrent dans la chaîne alimentaire et on ne les voit même plus. Donc c'est effectivement, aujourd'hui, presque un puits sans fond pour aller essayer de nettoyer cet océan-là. Il faut avant tout couper le robinet, comme on le disait, et arrêter de cet intrant permanent de plastique et de déchets dans nos océans.
Du coup, j'en profite presque parce que notre troisième FAQ était liée à l'écologie et en plus sur une chronique de Mélissa. Mais restons, du coup, faisons une FAQ inversée. Posons des questions à Surfrider qui, je sens, a quand même pas mal de réponses. L'initiative de parler ou les autres initiatives, comme vous dites, on peut pas faire ça à l'échelle industrielle. Est-ce que du coup c'est une forme de greenwashing, mais est-ce que c'est aussi une forme de marketing vert, mais qui permet au moins d'ouvrir les consciences, parce que en tant que grand public, moi je connais parler les initiatives avec Adidas, par exemple, et même si d'une certaine manière ils vont pas résoudre le problème du plastique dans les océans, ils vont au moins, comme disait Fibre, élever le awareness par rapport à la cause. C'est déjà une forme de bonne chose peut-être, même si c'est beaucoup plus limité que ce qu'ils veulent laisser imaginer.
Oui, je ne sais pas s'il faut parler de greenwashing, je ne parlerai pas de ça. Il y a effectivement du marketing, c'est quand même une certitude, c'est-à-dire qu'il y a une belle histoire qui est racontée, il ne faut pas s'en cacher. Maintenant, c'est une initiative quand même qui essaye d'aller aussi dans le bon sens. Donc nous, ce qu'on essaye aujourd'hui par rapport à notre boulot, notre mission sociale et puis le professionnalisme qu'on essaie d'apporter, c'est d'essayer de démontrer est-ce que réellement ça vaut le coup, hein. Si les résultats d'une étude qu'on mènera, c'est pas nous qui allons la mener, on va essayer de la confier à des spécialistes indépendants. Si les résultats de l'étude disent oui, c'est possible de le scaler et ça a une plus-value environnementale, on sera les premiers à le dire. Aujourd'hui, on manque d'informations et donc il y a une belle histoire, donc du marketing. Oui. Au-delà de ça, on sait pas.
On en revient un peu à ton histoire, mais ça, c'est qu'il y a un grand problème de tant qu'on n'arrive pas à rendre les choses palpables pour le grand public, c'est quand même très dur de d'impliquer les gens vraiment de manière simple. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voulait intervenir sur cette question? Inigo, qui est un peu notre membre actif ce soir. Bonsoir Inigo, rebonsoir.
Rebonsoir. Mais du coup, ouais, par rapport justement par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, j'ai déjà vu quelques images et je pense que c'est peut-être la stratégie qui peut marcher, c'est de voir un peu l'équivalent de l'ours polaire qui est en train de mourir. Parce que il y a des images où on voit des poissons ou des animaux, notamment des tortues, qui sont morts à cause du plastique de cet océan. Je pense que c'est peut-être la stratégie du choc peut servir, parce que c'est vrai que pour nous réveiller, pour quelque chose qui en plus est intangible, qui est difficile à voir... De voir un petit animal tout mignon éventré avec plein de plastique dedans, peut-être que c'est la stratégie.
De dire ce marrant. Là,
ouais. Vous cherchez comment reconnaître un sociopathe.
Quel enfoiré ça donne.
Là, il y a aussi une sorte de gigantisme du truc qu'on n'arrive pas, qu'on a du mal à saisir.
Mais c'est que, même si tu me dis aujourd'hui qu'il y a quelque chose de grand comme les États-Unis, ou même tu me dis juste même l'Île-de-France. L'Île-de-France en plastique, j'arrive même pas à comprendre ou à appréhender la chose, en fait. C'est impossible. Et surtout si monsieur dit qu'en fait, ce qu'on voit, c'est donc la partie émergée, de l'iceberg, mais que le gros, en fait, est déjà
au fond
ou dans des ventres à droite à gauche, c'est vrai que c'est très dur. Oui, alors, il y a deux mains qui se lèvent. On va passer le micro et après, trois mains. Allez, on fait les trois. On fait la tournée des Grands Ducs et après, on passera au dernier sujet. Bonsoir,
ouais.
Monsieur.
Salut. Donc, Aziz, ouais. Alors, bonsoir. Auditeur 404. Alors.
Ah. Et Calitos ou Caliteros, du coup?
Cali, je m'en fous.
Cali, je m'en fous. Est-ce qu'on a trouvé l'appellation universelle de notre communauté?
Je pense que c'est l'appellation universelle.
Les Cali, je m'en fous. Très bien.
Ouais. Donc, deux remarques. Première remarque, quand la première fois que j'ai entendu parler du continent de la mort, c'était dans Oh, I Met Your Mother.
Quoi? Comme quoi?
2011.
Comme quoi une mauvaise série peut...
Ouais, non, mais attends. Mais faut pas. Mais alors,
ça. Ah, vu mettre Continent de la mort?
2011, c'était super populaire comme série. Et je pense que la force de frappe de ce genre de trucs, ça peut être très puissant.
D'accord.
Deuxième remarque, je l'ai oublié.
Non, mais ce qui est bien, c'est que ça veut dire que dès 2011, ça existait, alors que moi, j'en ai vraiment entendu parler sérieusement que depuis l'année dernière.
Oui, mais voilà. Moi, je faisais mes études et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, je pense pas. Bah, tu regardais peut-être pas la série, mais en fait, je pense que vu le nombre d'auditeurs, c'est assez puissant.
Ouais.
Donc, je pense que c'est un des moyens de le faire connaître. Deuxième chose, la deuxième remarque, c'était quel est notre impact en France? C'était plus à Safraneur, parce que j'ai l'impression que la conscience écolo en France, elle est quand même assez élevée. J'ai plus l'impression, ou c'est une impression, hein, je pense.
C'est une impression. Je pense.
Ouais. Pourquoi en fait ce serait en Asie que les plastiques seraient produits? Enfin, j'ai l'impression que dans les pays où la conscience écolo elle est pas élevée, les déchets qu'on jette à la mer et partout, leur poids il est important. Enfin, j'ai l'impression que ce qui jouerait, ce serait d'élever la conscience écologique dans le monde entier.
Alors, fact-checking pour
la conscience écologique. Je me permets, ouais. La conscience écologique elle est liée aussi au niveau de vie.
Oui, je suis d'accord.
Et donc, à moins de faire ce que je propose, c'est-à-dire
tu les pauvres.
De faire émerger une classe moyenne absolument partout.
Grâce aux iPhone X,
iPhone 10 Max.
Juste truc simple, je vais en Tunisie parfois en vacances, je vois les gens jeter n'importe quoi sur les plages, c'est des locaux.
Oui.
Et ils me disent, oui, mais c'est déjà sale. Je m'en fous.
Ouais,
je leur dis, mais faites attention à votre pays, bordel. Et c'est la conscience écologique qui n'est pas.
Est-ce que tu France-plane un petit peu
le France-planing.
Je France-plane, mais j'y vais plus tellement ça me dégoûte. Mais voilà, le truc c'est que j'ai question c'est quel est notre est-ce qu'on peut encore beaucoup plus s'améliorer nous?
Oui.
Est-ce que l'effort il est à faire sur nous-mêmes en France ou est-ce qu'il faut qu'on aille éduquer le monde?
Alors Surfrider, pour cette petite question simple et vite œuf comme on dit, est-ce que quelqu'un de Surfrider peut donner des avis? Alors il y a un monsieur qui s'appelle Rémi qui au fond on sait pas ce qu'il fait là.
En fait,
bonsoir.
La question c'est d'où vient la plus grande partie de ce plastique, quoi.
Bah, d'où vient effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que retournant moi aussi dans mon pays d'origine, je sais que le plastique s'en bat le lec. Rémi.
Ouais, ça a peut-être été déjà dit, mais je travaille sur un projet d'application qu'on peut crowdfunder d'ailleurs, si vous voulez donner. On est à 100 euros du résultat. C'est pour la vanne.
Vas-y, tu peux envoyer, on est chez toi.
Hein. Okay. En fait, en travaillant sur cette application depuis 2 ans, j'ai pas mal essayé de sourcer des informations, et notamment l'ADEME disait que autour de 70% des Français savent qu'il y a un problème écologique, mais que la grande majorité d'entre eux, pourquoi ils agissent pas, c'est parce qu'ils savent pas comment, en fait. C'est notamment aussi pourquoi nous, on agit sur l'éducation des citoyens, sur comment réduire ces déchets. Donc du coup, il y a peut-être une conscience qui est un peu plus élevée. Après, je pense qu'il y a beaucoup aussi la notion de bulle filtrante que vous avez déjà abordée, c'est que... Oui. Quand on est touché par des choses qui nous intéressent, il nous semble que tout le monde est à peu près dans ce même discours-là. Et du coup, on voit peut-être moins une autre partie de la population qui serait beaucoup moins sensibilisée. Et voilà, c'est surtout, je pense que tout le monde ne sait pas comment faire. Fib, tu as parlé beaucoup de comment nettoyer les océans de déchets, parce qu'il semble que c'est une solution. Mais en fait, on génère beaucoup plus de déchets, on envoie beaucoup plus de déchets dans les océans qu'on peut en nettoyer. Donc je pense que c'est vraiment apprendre les bons gestes et vraiment éduquer les gens. Je vais laisser Christina, notre experte déchets, préciser d'autres choses.
Christina.
Oui, l'experte déchets.
Experte déchets, c'est...
Généralement, c'est Madame Déchets. Bon, experte déchets, ça me va
aussi.
Encore
une fois, c'est une bio Tinder qui mérite...
C'est pas mal.
Tu matches, c'est la classe.
Alors, le concept d'éduquer le monde, ça m'a fait un peu peur. Là, je me suis vue comme un colon à aller coloniser les pays.
Bon, en fait, fait, ça marche.
Oui, mais tu as face à toi, ouais. À toi des gens un peu flemmards. Hein,
ça fonctionne, hein, ça a déjà été fait par le passé.
Ça a pas mal marché il y a un petit moment, ouais. Oui, sur d'autres sujets. Bref. effectivement, en fait, on a coutume de dire qu'il y a beaucoup de pays, que c'est surtout l'Asie du Sud-Est qui pollue. La pollution par les déchets aquatiques et les déchets plastiques. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont produites là-bas. Il faut savoir que nous, en Europe, et encore pas dans tous les pays européens, on a la chance d'avoir des systèmes de gestion des déchets. C'est-à-dire qu'on a des endroits où on va pouvoir jeter les déchets dans les poubelles, ça va être récupéré, certains vont être recyclés, mais une grande majorité va finir enfouie ou en incinération. Donc finalement, est-ce que c'est la panacée? J'ai envie de dire non, pas vraiment. Mais dans ces pays-là, il faudrait quand même essayer de les éduquer, c'est vrai, mais il faudrait aussi leur apporter des solutions de gestion de ces déchets pour que, évidemment, ils aient pas le réflexe de jeter par terre. Mais c'est pas pour ça qu'en Europe, on est complètement les plus propre, j'aime pas le mot propre, mais les plus respectueux. Il y a beaucoup de gens dans notre quotidien, même ici à Surfrider, qui font des choses tous les jours et qui ne se rendent pas compte qu'ils polluent.
Christina, est-ce qu'on peut avoir des noms, s'il te plaît? Respectons certaines traditions françaises. Là, je me mets à la place de Daz.
Je peux donner des noms assez facilement. Non, mais
qui appuie sur la grosse chasse d'eau après une petite commission, Christina? Il nous faut des noms.
J'aimerais bien qu'ils appuient déjà sur la chasse d'eau après n'importe quelle
commission. Oh là 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 là. Aïe.
Mais là,
on assiste
c'est
à la fin de formation ce soir.
C'est un autre problème. Non, ce que je veux dire, c'est que finalement, par exemple, quelqu'un à Paris, même s'il a une petite conscience écologique, il va se dire, je vais jeter mon mégot et je vais le jeter dans le caniveau. Et je vais le jeter quelque part. Mais il ne se rend pas compte qu'en le jetant dans le caniveau, ça peut arriver dans la rivière et ça peut arriver dans les océans.
D'accord.
Donc ce que je veux dire, c'est que l'éducation, il faut la faire à tous les niveaux. Et que c'est pas forcément... Enfin, en France, on n'est pas forcément mieux lotis, qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour que les gens se rendent compte de notre impact au quotidien.
Juste pour indication, et peut-être pour finir là-dessus, qui sont les pays champions du monde, du coup, en termes de conscience et d'action?
La Scandinavie, je le sens.
Ouais.
Le point Scandinavie.
Mais ils sont deux dans ce pays, c'est normal aussi.
Souvent le point Scandinavie arrive, mais est-ce que
effectivement, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que il y a des pays qui ont une conscience écologique beaucoup plus développée que d'autres. Et par exemple, dans ces pays-là, les taux de recyclage sont importants.
D'accord.
Après, le recyclage, c'est pas la vie. Hein. Le recyclage, ça consomme aussi des ressources. Donc finalement, je vais rejoindre Mélissa. Le mieux, c'est de pas produire de déchets. Donc c'est de consommer différemment. Mais je veux pas faire trop l'ayatollah. Je voulais juste rajouter un fun fact, moi aussi. C'est que si vous êtes amateur de fruits de mer, faut savoir que si vous aimez, par exemple, les moules et les huîtres, chaque année, vous pouvez consommer jusqu'à 11 000 morceaux de particules plastiques, parce que c'est des organismes filtreurs et ils filtrent ça.
C'est pour ça qu'elles sont si bonnes.
Donc, apparemment, ça augmente la libido, faut y aller.
Oh.
Est-ce qu'il ne faudrait pas, du coup, donner un goût au plastique? Pour par exemple manger des moules à la fraise.
Franchement, il est pire que moi.
Bah, je propose.
Non, mais t'imagines si on arrive à éradiquer le problème hyper rapidement et tous les aliments ils auront un goût différent d'avant. Et on se dira, ah, c'est bizarre quand il n'y a plus de plastique quand même.
On a une question.
Une dernière question avant d'attaquer le dernier sujet.
Je suis tellement d'accord avec vous, Claire. Foutu pour foutu. Surconsommation, surpopulation.
On y vient.
Chef Marx. Des produits au plastique. Il va falloir en manger, les gars. On en mange déjà. Donc moi, je pense qu'on retraite. C'est déjà salé. Ça a pris le soleil. Faut qu'on en mange.
C'est un peu le jambon pays du plastique, quoi. Il est salé, il est séché.
C'est la seule solution, les gars. Je suis désolé, Surfrider, mais il faut y aller, quoi.
Du plastique de Bayonne, écoutez.
Très bonne idée. Très bonne idée.
Cette personne va disparaître mystérieusement avant la fin de l'émission.
Troisième et dernière question.
Allez, troisième et dernière, comme ça on en fait évidemment la tournée de Grand Duc. Bonsoir monsieur.
Bonsoir. Donc moi je voulais juste revenir sur l'histoire de Pokémon Go.
Ah, voilà. C'est important.
Voilà. Non mais parce qu'en soi, c'est une très bonne idée. Parce que la gamification de ce genre d'action, même de ramassage des déchets sur les plages, etc., de faire des jeux là-dessus,
ouais.
C'est la solution. Bon après bien sûr, voilà, il faut pas. Enfin, on peut pas.
C'est une
nettoyer.
Solution.
Voilà, c'est une solution. Et pour les déchets qui sont sur les plages et voilà. Ouais.
Alors monsieur est d'accord, et c'est vrai, juste pour finir dessus, on revient sur un sujet qui est plus 404, qui est évidemment le numérique et les comportements que le numérique induit. Est-ce que la bonne vieille gamification, qui est un des thèmes centraux de notre podcast, de notre émission, est-ce que ça pourrait vraiment marcher comme ça a marché pour le running, la santé, Yuka, ce que vous voulez, en fait, avoir un scoring
en vrai,
de propreté?
Alors je me suis posé vraiment la question.
Ouais.
Et en tant que game designer, et je pense que ça marcherait pas.
Pourquoi ?
Parce que l'écologie, c'est un thème quand même un peu, excusez-moi de dire ça, un peu sinistre. Non, enfin, tu vois, ça fait un peu serious gaming, genre quand tu gamifies l'écologie.
Ouais.
Tandis que quand tu prends Pokémon Go, qui peut déplacer des masses humaines sur des endroits par le jeu, par des choses positives, et en plus, Pokémon Company a tout intérêt à greenwasher son image parce que ça ne peut pas lui faire de mal et ça peut aider la planète. Donc, je pense qu'effectivement, en utilisant plutôt des phénomènes extérieurs, Moi, je me méfierais, en tout cas maintenant, dans le passé, dans un futur proche, de gamifier un peu trop l'écologie parce que les gens ont pas envie de jouer à ça. C'est sérieux en plus finalement.
Voilà. Oui, mais justement, c'est l'art de gamifier, c'est de rendre quelque chose de très sérieux, de plus ludique en fait, d'une certaine manière. Mais toi, tu crois que quand même, enfin, tu parles d'un truc encore une fois sans cynisme, mais l'écologie, c'est quelque chose qui pour toi est toujours un peu grave.
Par exemple, il y a une application qui s'appelle Innaturalia, je crois. Je l'ai sur mon portable, mais je l'ai allumé deux fois pour.
Et tu laisses les notifications on ou pas sur cette application
fibre ? Non, c'est un Instagram où tu prends la faune et la flore qui est pas loin de chez toi. Et ils disent voilà, vous habitez à telle région, il y a par exemple des orties. Allez, prenez-les en photo, vous gagnerez 3 points. Le concept est génial. Il y a des tas de gens qui jouent.
C'est un Pokémon des plantes.
Ouais, un Pokémon des plantes, super bien fait, vraiment mais parfait. Et j'y joue pas, et peu de gens y jouent. Et tous les gens écolo que je connais, ils disent, je préfère Insta. Si je vois prendre une belle photo de plante, bah, je le fais sur Insta.
D'accord.
Et effectivement, si je devais sauver le continent de plastique, et c'est aujourd'hui que je dois m'y mettre, je miserais sur Pokémon Go. Voilà.
J'aimerais. Prenons cette phrase évidemment hors contexte, tout on la postera directement sur le Twitter, car c'est comme ça qu'on aime teaser nos émissions. Très bien. Rémi, il faut un micro du coup. Rémi qui va dire Fibre Tigre, je t'aime beaucoup.
Mais. Fibre Tigre, je t'aime beaucoup.
Mais.
Niantic l'a déjà fait, ce que vous dites là, de mettre des rares sur des lieux pour faire venir les personnes nettoyer les déchets. Ils l'ont fait cette année.
Wow.
Et la preuve que ça peut-être marcher que ça, puisque personne ici le savait au final.
Voilà. Ah non, je savais pas du tout.
Mais nous ne sommes pas des gros joueurs de Pokémon.
Au moins, ils auront tenté. Très bien. Eh bien. Écoutez, ça clôt ce gros débat sur le continent de plastique et en fait le problème global du plastique. Et ça va nous permettre d'enchaîner sur le sprint final de cette émission et le Marc Raquel de l'équipe, évidemment. C'est Sylvain Parlet.
Le numérique est la solution à tout. Le numérique est vraiment la solution à tout.
Ah, suspense. Remise en question.
Alors, dans cette ambiance de mort, de mauvaises nouvelles, moi, j'arrive pour relever un petit peu le moral des troupes. J'ai dans ma hotte des bonnes nouvelles. Je suis un petit peu le Père Noël vert. Et j'arrive avec plein de solutions concrètes et numériques pour faire face à la crise climatique au devant laquelle nous nous dirigeons. Haut les cœurs, les amis. Faites confiance à l'ingéniosité humaine pour se sortir de ce mauvais pas. Je vous signale que grâce à notre capacité d'innover et à la technologie que nous inventons chaque jour, nous avons résolu la faim dans le monde, quasiment. Nous avons rapproché les peuples, nous avons permis à des révolutions de renverser des tyrannies, c'est pas rien, à des démocraties de se mettre en place. Bref, voyez les chiffres de la pauvreté, de la faim ou de la croissance, l'humanité ne s'est jamais aussi bien portée.
et c'est pas Fibre qui va me contredire. La crise environnementale n'est qu'un autre problème et l'innovation technologique est la solution. Faites confiance à l'ingéniosité humaine. On s'en est toujours sorti, non ? Avez-vous entendu parler de la Green Tech ? C'est des start-up qui sont déjà en train d'améliorer la condition de la planète. Distribution d'énergie grâce à la blockchain, stockage dans des batteries Tesla, éoliennes et panneaux solaires partout dans le désert du Nevada, avec des coûts de production de plus en plus faibles, économie d'échelle, etc., etc. Tout cela est déjà en marche. Vous voyez, pas besoin de revenir à l'époque de Cro-Magnon ou de devenir un hippie décroissant. Un exemple parlant pour les citadins, Deliveroo. Green Tech. Vos repas sont livrés à vélo et par des migrants auto-entrepreneurs. Plus sain pour l'environnement, plus sain pour le social. Une techno, deux problèmes de résolu. Bam ! À ce rythme-là, toutes vos inquiétudes sont bientôt de mauvais souvenirs. Le solutionnisme, ça marche. Et pendant que tout le monde panique et court dans tous les sens en hurlant, la Silicon Valley, elle nous montre le chemin du progrès. Et heureusement, chez 404, nous sommes là pour la chroniquer. Vive la tech, vive le green, vive la green tech.
Merci, c'est déjà la fin de cette chronique incroyable.
Incroyable.
À moins que...
Tout ce que je viens de vous dire est faux. Complètement faux.
Sauf pour Deliveroo.
Elon Musk, ce n'est pas votre messie. Il ne viendra pas vous sauver. Dans les scénarios les plus réalistes, nos sociétés s'effondrent de manière catastrophique d'ici 2050. Bonne nouvelle, c'est qu'on sera vivant pour le voir. Peut-être. Plus 2 degrés Celsius, réaction en chaîne, des centaines de millions de réfugiés climatiques, des sécheresses, des famines, des guerres, la montée des eaux, des millions de morts. Et Elon Musk, il ne sera pas sur Mars. Il sera dans un bunker en Nouvelle-Zélande, comme la plupart des milliardaires de la Silicon Valley, qui sont tous en train d'acheter leur nationalité néo-zélandaise. C'est vrai, vous pouvez vérifier. Aussi vrai que la technologie seule ne nous sauvera pas, aussi optimisée soit-elle, aussi volontaires soient nos efforts pour la recycler. Dans un article publié sur Fast Company, pour info, Fast Company, c'est quand même le magazine des startups. Hein. Fast Company, imaginez des corps célestes qui rentrent très 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 vite dans l'atmosphère. Vous voyez l'image, c'est des entreprises. C'est pas vraiment une officine du communisme non plus, c'est même plutôt l'inverse. Sur Fast Company donc, un anthropologue et économiste qui s'appelle Jason Hickel pointe du doigt la fameuse croissance verte et nous explique pourquoi la technologie seule ne nous sauvera pas. Aujourd'hui donc, nous croyons à la croissance verte. C'est un petit peu notre modèle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une petite taxe carbone, une COP21, 4 ou 5 signatures et une poignée de start-up, et hop, vous avez de la croissance verte. Ça veut dire que nos pays, ils peuvent continuer à croître, mais sans endommager la planète. Et cela grâce à la technologie. En gros, en faisant payer des entreprises quand elles émettent trop de carbone, c'est ce qu'on appelle la taxe carbone, on se dit qu'elles vont en avoir marre et qu'elles vont inventer des manières plus propres de faire du business.
CFDAS.
Grâce à la technologie. Grâce à l'ingéniosité humaine, encore une fois. Le bâton, la carotte, une méthode pédagogique qui a fait ses preuves. Pour info, l'ONU a fait tourner une simulation avec une taxe carbone qui s'élève à $500 par tonne. Et bien même avec un prix aussi élevé, on crève la gueule ouverte en 2050. Pour info, la taxe carbone en France, aujourd'hui, elle est autour de 45 euros la tonne. Donc c'est une vaste blague. Pour Jason Hickel, notre grande malédiction, c'est que notre système d'exploitation, il a un défaut de conception. Voyez-vous, ce qui fait tourner capitalisme OS, c'est la croissance. Et vous savez comment on mesure la croissance ? Fibre le sait, on en a déjà débattu, grâce à un indicateur qui s'appelle le PIB. Vous l'avez appris à l'école, ce PIB, il est calculé principalement grâce à ce qu'on produit et à ce qu'on consomme à l'intérieur du pays. Donc en gros, le PIB, c'est quand vous achetez des choses. Pour être en croissance, il faut que notre PIB soit supérieur à celui de l'an dernier.
Logique. Classique.
Logique. Si on passe en dessous de 3% de croissance, le système s'effondre. Donc pour résumer, il faut que vous consommiez plus que l'année dernière. C'est une question de survie. Voilà, basic economics. Qui peut croire, sans être de mauvaise foi d'Az, que ce modèle nous permet de protéger l'environnement ? C'est impossible !
Il faut penser en quatre dimensions, Marty.
Bien sûr. La loi de Moore existe, hein, donc toujours des processeurs de plus en plus fins, plus efficaces, etc. L'économie d'échelle aussi, elle existe. C'est bien, plus on produit, plus on fait d'économie. Mais pour faire une table, il faut du bois. Pour faire un smartphone, il faut du cobalt. Produire de l'énergie, créer de la chaleur. On n'a pas encore inventé de start-up qui défie les lois de la physique.
On peut avoir un smartphone en silex, moi j'y crois.
Peut-être. Cette vérité, ça c'est de la low-tech. Cette vérité est brutale, mais il va falloir l'intégrer. Alors, je vais vous éviter le discours anticapitaliste, on fera ça à l'apéro ce soir, au PMU.
Ah oui, parce qu'il y a un apéro ce soir, évidemment.
Je vous demande de ne pas vous arrêter aux clichés, je ne suis pas en train de vous prôner un communisme ou l'anarchie. Je vous demande simplement de considérer la question suivante, le temps d'un petit vote, on va faire des petits votes à main levée. Écoutez bien, du coup, parce que je vais vous mettre à contribution.
Alors, attention.
On va faire un peu de design. Donc si on met notre ingéniosité technologique, la fameuse, et nos esprits créatifs, car nous sommes tous des créatifs ici, pour réfléchir à un modèle économique de nos sociétés qui ne soit pas basé sur la croissance. Attention, je ne vous demande pas de remettre en cause le capitalisme, pas forcément, mais de réfléchir à un modèle économique qui n'est pas basé sur la croissance.
Parce que la croissance est une catastrophe écologique.
C'est ça. Studio 404 se met donc en mode think tank. Nous pensons en dehors de la boîte. Je vais vous faire des propositions et vous allez voter à main levée ce que vous seriez prêt à accepter ou non pour créer cette nouvelle société qui n'est pas basée sur la croissance. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez aussi, il n'y a pas de problème. Première proposition, on arrête d'utiliser le PIB comme indicateur de croissance. On utilise ce qu'on appelle, c'est un projet qui s'appelle l'indicateur de progrès véritable. Le nom en anglais est un petit peu plus sexy que ça. C'est la même chose que le PIB, sauf qu'on va soustraire au chiffre du PIB toutes les externalités négatives. Taux de pollution, empreinte carbone, épuisement des ressources, taux de pauvreté, taux de crime, etc. Qui serait prêt, avec toutes les conséquences que ça apporte, hein, ça change complètement le classement mondial des pays, hein, qui serait prêt à adopter ce système-là pour classer les pays?
Même moi, je lève la main, mais j'ai une question.
Vas-y.
On est sur un bon 65% là. Ouais.
Tu parles de l'épuisement des ressources pour calculer donc l'indicateur de produit véritable.
L'indicateur de
un des critères de croissance. Critère de calcul.
Ce nouveau critère de croissance.
L'indicateur de progrès véritable, d'accord.
Voilà, on prend ça en compte.
Mais tu prends l'épuisement des ressources à l'endroit où les gens, où tu mesures ton.
Ouais, dans l'intérieur du pays, comme le produit intérieur brut.
C'est-à-dire que pour nous qui consommons cobalt et autres
silicium à gogo et cuivre,
vu qu'on les produit pas,
on a une meilleure note que les pays
qui eux ne les consomment pas.
Ok, on enlève celui-là. Voilà.
Merci. On enlève ce critère,
très bien. Seconde proposition, on consomme moins d'électricité. Donc à chaque fois, c'est des solutions technologiques pour essayer de moins consommer, hein, finalement. On consomme moins d'électricité avec des appareils plus intelligents, comme Adidas, là je suis d'accord. Par exemple, quand tu ouvres la fenêtre, ça coupe le chauffage, logique. Le thermostat intelligent, il s'éteint quand tu n'es pas là. Et il commence à chauffer la maison quand tu pars du boulot, par exemple. Un coupe-circuit de certaines prises quand tu quittes la maison pour être sûr de ne jamais laisser une ampoule allumée. Qui serait prêt à installer ça? Ça coûte un peu cher, hein, de mettre ça en place.
La question, c'est qui sera prêt à payer pour installer tout ça, peut-être.
Et dis le prix. Dis qui serait prêt à payer 1 200 € pour ça,
par exemple.
Ah.
Trop cher.
Bah oui.
Trop cher.
Alors, attendez. 1 200 €, mon petit gars, c'est à peine le prix d'un téléphone.
Enfin, dans ton échelle des valeurs. Moi, qui serait prêt à, on va dire, payer 2 000 € d'installation chez lui pour avoir une consommation plus éco-responsable.
Vous faites des économies.
On y gagne.
Alors là, on est sur un 20% grand max, hein. Donc c'est
je trouve ça incroyable parce que, de mon point de vue, c'est le machin le plus en prise avec la réalité de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire et, concrètement, tu ne perds pas d'argent.
Tu perds pas d'argent à long terme.
T'amortis l'investissement, en fait.
Il faut les avoir. Il n'empêche que, c'est parlant, moins de la moitié des gens a voté oui, pré-installé ça.
Mais réveillez-vous, enfin.
Non, mais attends, ok, Daz.
Alors qu'ils sont prêts à changer
le
PIB.
Il y a un prérequis à ça. Faut que tu sois propriétaire. Tu vas pas l'installer chez, alors que t'es locataire.
Non, mais c'est que des devices. Tu les emportes avec toi quand tu déménages.
Non, t'es tellement pragmatique, il bat du front.
Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a tout un. Non, parce que il veut supprimer le capitalisme. Mais le problème, c'est qu'on est déjà dedans. Donc,
je parle de le modifier.
De le modifier.
De le patcher.
On fait du hacking.
Mais j'ai vu que même Surfrider n'est pas trop. Enfin, tout le monde n'a pas voté pour cette solution.
Je crois que c'est ceux qui tirent pas la chasse d'eau, mais après, je veux pas dénoncer trop fort.
En même temps, la montée des eaux quand on s'appelle Surfrider, finalement.
C'est gagnant.
J'avoue.
Ah, c'est nul.
Troisième proposition, pour aller un cran plus loin sur l'énergie, on décentralise la grille énergétique. C'est-à-dire qu'on devient tous à la fois producteurs d'énergie et consommateurs d'énergie.
Combien ça coûte?
La blockchain nous aide à gérer la distribution d'énergie.
Alors ça coûte cher.
Mais si, mais c'est comme pour orienter des paquets. Ça permet de décentraliser.
Et ça coûte de l'énergie.
Oui, mais c'est l'énergie que tu produis toi-même. Et des ateliers sont mis en place dans votre quartier pour que vous fabriquiez vous-même votre éolienne low-tech.
Sur l'éolienne, je suis pas chaud, mais pour le reste, ok.
Est-ce qu'on peut enlever l'éolienne?
Ouais. Ok. Alors,
elle produit beaucoup.
Juste une grille de batterie entre tous les gens qui optimisent la distribution d'électricité.
En gros, que chaque foyer soit producteur d'électricité.
Mais en fait, c'est le rêve d'Elon Musk. Mine de rien, c'est que entre Solar City et Tesla, tout le monde a son toit qui en panneau solaire qui récolte de l'énergie
et qui est stocké.
Des batteries Tesla qui stockent et tout le monde est en grid. Toutes les maisons d'un pâté de maison sont en grid pour réguler l'électricité.
Soyez-vous prêts à avoir des soucis d'électricité comme vous avez aujourd'hui des soucis de plomberie? C'est-à-dire que parfois, l'électricité marche pas chez vous et le mec il peut venir vous dépanner que dans 6 jours, je suis désolé, va faire sans ma petite dame.
Ah, tu sais dire,
non mais il faut, parce que tes questions sont un petit peu biaisées.
Tu sais que c'est déjà le cas aujourd'hui.
C'est des vraies réactions là où t'es en train de jouer.
Ah mais non, mais complètement. Non, mais complètement.
Avec nous lui.
Mais t'as déjà des problèmes avec EDF.
Tu sais que c'est déjà le cas aujourd'hui en Bretagne et dans le sud de la France, qui sont en bout des réseaux électriques. Ils ont des pénuries d'électricité quand il y a des tempêtes.
C'est même l'inverse. S'ils étaient autosuffisants, quand ils sont coupés du réseau, ils continueraient à avoir de l'énergie.
Ce que je veux, c'est que ces questions elles soient honnêtes et dire, est-ce que vous voulez qu'on sorte une petite éolienne qui vous apportera l'électricité gratuite? Tout le monde va dire oui. La question, elle est biaisée. Je veux dire, non, si ça ne se fait pas aujourd'hui, c'est que ça pose des vrais problèmes. Ça prend du temps
ça prend des contraintes fortes, ça prend aussi de la ressource intellectuelle parce que tout le monde n'est pas malin pour le faire, et ça prend de l'argent surtout. Voilà.
Bon, qui est prêt à payer une batterie? Je crois qu'une batterie Tesla c'est entre 300 000 $ et le toit complet, c'est comme ça reste assez cher. Donc imaginez que vous êtes propriétaire d'une maison, est-ce que vous mettriez, on va dire, 40 000 $ pour une autosuffisance énergétique et le tout en grid? Là, du coup, une vraie question. C'est-à-dire que vous ne payez plus jamais d'électricité de votre vie, tout est vert, mais vous avez un paiement upfront qui est à 40 000 €. Qui le ferait? Qui lève la main?
Il faut être dans une zone ensoleillée quand même, on va pas se mentir.
Alors, ouais, imaginons que vous êtes à Biarritz hier et pas à Biarritz aujourd'hui, voilà, que okay. C'est le temps de Biarritz hier. Et qui le ferait?
Le vent,
40 000 $ sur votre maison dont vous êtes propriétaire quand même, donc on va mettre ça dans... Comment?
On parle de l'argent, quoi.
On parle...
Bah, aucune, plus d'essence.
Plus d'essence, parce que, évidemment, l'électricité que vous générez, dans le rêve.
De charger ta voiture électrique.
Dans le rêve de Sylvain et d'Elon Musk, elle charge la voiture, les engins, la maison, la télé, le tout. Alors, pareil, là, levez bien haut la main. Je pense qu'on est sur du 15%.
Mais lève pas la main! Toi, tu veux vivre dans une maison qui va bouger partout. Tu veux être un nomade.
Eh ben, moi, je veux que ma maison, elle soit autosuffisante.
Mais tu veux.
Mais sur roue?
Bah oui.
Moi, je vais être n'importe quoi.
Je vais être un gitan du futur, mais dans mon camping-car, il y a des panneaux solaires. Et je serais prêt à payer plus cher mon camping-car pour ça.
D'accord, OK.
Bon, moi, 15%. Donc
j'ai pas levé la main parce que l'accession à la propriété, je n'y crois pas. Pour moi, c'est une hérésie.
Bon, serais-tu prêt? Ah là là là.
Excuse-moi. À subventionner ton propriétaire pour
on a tous notre petit péché mignon, et moi c'est la location.
Quatrième proposition. Celle-là, je la trouve difficile, par exemple.
Alors écoutez bien la quatrième.
En tant que particulier, vous n'avez pas le droit de vous faire livrer un bien qui vient de plus de 1500 km. C'est-à-dire que quand vous faites un achat sur Amazon, si le produit est aux États-Unis par exemple, ou en Russie, vous n'avez pas le droit de vous faire livrer.
Mais alors, attends, donc des ordinateurs avec des chipsets qui sont faits made in France.
En tant que particulier.
Ordinateur souverain, mon gars. Oui, Thomson.
Donc ça veut dire que si HP ou Lenovo, ils ont un entrepôt en France... Ils peuvent, eux, acheminer les produits.
Ah, bah voilà,
mais
ouais.
C'est dégueulasse.
Attends, je comprends.
Non, mais attends. C'est exactement comme les mecs qui achètent.
Est-ce que tu peux éclaircir la proposition, Sylvain, là? Exactement, qu'est-ce que c'est?
En fait, c'est réduire les coûts de transport.
En fait, c'est ton envoi au moment où tu achètes ton produit, de là où il part jusqu'à qu'il arrive chez toi. Il faut que ce soit dans moins de 1500 km.
Mais donc, ça veut dire qu'un ordinateur fabriqué en Chine qui a été débarqué en France et que tu achètes depuis un entrepôt français, t'as le droit?
Mais c'est déjà le cas.
C'est génial.
Mais c'est déjà le cas.
Bah, ça change pas le problème.
Mais alors, une mangue qui vient de l'Équateur et qui est stockée 2 minutes à chez Carrefour, je peux le faire aussi. Ça marche partout.
C'est
ton
la beauté
truc.
Du système.
Tout le monde est d'accord.
Non, mais ce qui est assez génial, c'est que déjà là, il y a des gens qui sont pas d'accord pour le faire. Et du coup, ma cinquième proposition, c'est la même chose, mais là, les entreprises n'ont pas le droit de stocker. Donc quelque chose qui est produit à plus de 1500 km que chez vous, vous pouvez pas l'avoir.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, aucun objet technologique ne pourrait être acheté en France dans l'état actuel des choses.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, un type en Californie, si le truc est produit à New York, il est foutu parce que ça a plus de 1500 km et c'est débile ton truc.
Bah, du coup, c'est une proposition.
Comment on appelle
ça pour la nourriture? C'est local.
Locatech.
Locatech. Est-ce que vous serez prêt? Locatech.
Oh là là.
Comment vous êtes tous des menteurs.
Attendez, pas de chat.
Non, mais attendez, c'est important. Moi, je veux pas, mais il y a des gens.
Bah oui.
Hey, elle rejoint ma proposition pour un futur futuriste.
C'est quoi?
Oui. Alors, je rappelle, attention, Wiko n'est pas une marque française.
Oui.
Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des Wiko ici. Ok. Shame on you. Okay. Voilà. Donc il y a vraiment des gens qui sont.
D'ailleurs, Wiko, c'est vraiment plus du tout français parce qu'à la base, c'était une société écran.
C'est fou.
Mais si, mais des télés Grandin.
Non, Grandin, c'est fabriqué en Chine.
Merde. Des télés
Grandin, c'est le Wiko de la télé. Hein.
Pour le coup, il va falloir faire des ateliers, on construit ta télé chez soi. Quoi.
Mais tu vois, ça veut dire pas de télé, pas d'internet maintenant, mais dans 5 ans, dans 10 ans.
Mais ça veut aussi dire des objets, encore une
nouvelle
fois,
économie.
Des objets qui coûtent beaucoup plus cher parce que l'énorme majorité des objets manufacturés qu'on achète, que ce soit des vêtements ou de la technologie, sont fabriqués en Asie du Sud-Est ou en Afrique à des coûts extrêmement bas. C'est-à-dire que là, effectivement, votre téléphone Android pas cher, il coûterait 1 300 € de base, puisque ce serait un vrai prix.
C'est-à-dire que quand je vais acheter ma télé Berthier,
ouais,
et que je l'allume,
ouais,
le petit jingle, ça pourrait être la Marseillaise en...
Oui. Ah bah, à 4 000 € la télé, je pense que t'as le droit d'avoir la Marseillaise.
Avec Emmanuel Macron, comme ça, en trois couleurs.
On repose la question, est-ce que vous seriez Locatech? Qui serait prêt à acheter tous ces produits, même les produits manufacturés, les objets technologiques,
si
en France, à moins de 1500 km, où on va dire, on va grandir à l'Espagne et au Portugal, ce qui est important.
Est-ce qu'on peut donner quand même une fourchette de hausse de prix par rapport à...
x3.
Sur la technologie, ce serait une catastrophe en France, parce qu'on n'a même pas les ressources naturelles pour le faire.
Tu vois le Venezuela en ce moment? À peu près pareil.
Ouais.
Ok, faire.
Bon, là, on a un petit 7-10% qui sera prêt à être Locatech.
Alors, sixième proposition, qui a été un petit peu évoquée par Mélissa.
Votre appareil électronique, smartphone, ordinateur, les télés aussi, s'éteint automatiquement lorsqu'il dépasse une certaine empreinte carbone par jour.
Oui.
Donc, est-ce que vous serez prêt à avoir un...
En plus, ça régule l'utilisation. De... Parfait.
Une sorte de... Comment okay. on peut appeler ça
un timer.
Un cercle gastrique, comment on appelle ça
un anogastrique.
un anogastèque. Voilà. Un anogastèque, est-ce que vous serez prêt à vous foutre ça?
Il y a 50% quand même.
Oui, on peut l'allumer, mais on peut plus rien consulter au-delà d'un...
Non, on peut l'allumer le lendemain, à minuit.
Ah non, on peut pas l'allumer.
Moi, j'appelle ça le contrôle parental sur la Switch. Hein, mais bon, après,
Alors, attendez, qui serait prêt à s'imposer un bridage d'utilisation?
C'est chaud.
Moi, j'aime bien ce truc.
Chaud,
parce que tu te dis...
Pas mal.
À chaque
mal.
Fois que tu vas aller sur Facebook, tu te dis... Ah putain, est-ce que ça vaut le coup, tu
vois. C'est vrai.
J'ai du taf, j'ai un truc à envoyer à 18h.
Et du coup, tu mettras un commentaire en disant... Ton truc, c'est de la merde. Quand je pense que j'ai perdu 3 minutes de ma vie à lire ton statut. et là, il y aurait une vraie...
Est-ce que le monde ne serait pas meilleur, peut-être?
Mais oui, et les gens se forceraient à poster des trucs en disant « Là, il faut que je réfléchisse bien à ce que je vais dire. » Parce qu'il y a des gars, ils claquent leur dernière minute sur mon statut.
Attends, mais est-ce qu'on vient pas à l'ère du 56K où chaque minute qu'on fait sur Internet, on est là, génial. Genre, ce que je vais faire sur Internet va compter parce que ça douille.
Septième proposition, et c'est la dernière. Après, vous pourrez proposer les vôtres. Avoir une partie d'Internet qui a un stockage fini. C'est-à-dire, on dit qu'Internet, ça fait 2000 pétabits.
Ouais.
Et qu'à chaque nouveau contenu, ça efface le contenu le plus ancien.
Non,
sauf pour Wikipédia et les contenus universitaires.
Wow.
Chaud.
Eh non, okay.
Tous les sites de
discrimination,
presse.
Alors, encore une fois, on part du fait qu'on accepte qu'il y a une taille finie
à
Internet.
C'est truc.
Qui n'est pas en expansion.
C'est comme, non, mais c'est comme Snapchat, mais élargi à plus de réseaux.
Ça s'appelle la Chine.
Non, parce que la Chine, c'est pas chronologique, c'est arbitraire.
Oui, c'est vrai.
C'est encore un autre kiff. Qui serait prêt pour avoir un espace fini et limité d'Internet qui vire ce qui est ancien? Deux personnes.
Trois
personnes. Quatre personnes.
Six personnes.
Bon, c'est pas sur cette mesure que tu seras élu.
Mais en tout cas,
c'est pour ça que c'était la dernière.
Son programme électoral, encore une fois. Merci beaucoup, Sylvain. Sylvain Palais 2022. Alors évidemment, derrière cette chronique, Sylvain, on explique qu'on est ravis d'être invité chez Surf Rider pour parler de numérique et d'écologie, mais que plus on bossait sur l'émission, évidemment, plus on réalise que le numérique, c'est important et ça fait avancer les choses, la gamification, la prise de conscience, les technologies toujours plus efficientes, mais c'est évidemment pas la finalité et c'est pas la solution, alors que pour ceux qui suivent 404, on parle souvent, très souvent de solutionnisme, donc c'est trouver des solutions grâce aux technologies. Là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution par la technologie en tout cas.
La technologie peut faire partie de la solution, mais ça ne résoudra pas tout. Quoi.
Ouais.
On le sait.
Il faut vous y mettre un peu, c'est tout.
Acheter des iPhones.
Consommer plus d'iPhones. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient d'autres propositions là-dessus, justement pas des contraintes, mais une sorte de discipline à se donner, en tout cas. Fibre.
Il y a un livre de science-fiction qui s'appelle Le problème à trois corps, où il grave avec un laser sur la surface de Pluton le testament de l'humanité, en quelque sorte. Moi, je serais pour un Internet limité, effectivement, en taille, mais tout ce qui déborde, on le grave sur quelque chose. On sait jamais. Non, mais c'est un peu comme l'âme qui refuse d'effacer ses photos qu'il a en trop.
Ah, on le grave.
Et on le grave quand même, c'est pas perdu, tu vois. Non, mais je veux bien qu'on
soit dans des planètes et t'en fais des discuteurs d'archives.
Qu'il y ait une mémoire vive et une mémoire morte, tu vois. Il y a les mémoires vives d'Internet. Tu peux l'accéder à tout moment. Et la mémoire morte, c'est un peu les archives, mais loin, tu vois.
Ouais. D'accord.
On pourrait graver ça sur low-tech. Des tablettes.
Il grave Pluton. Il grave la surface de Pluton, tu vois.
C'est une solution que je trouve réaliste et à court terme facile à mettre en œuvre. Faire de Pluton un disque dur, je veux dire.
Les anneaux de Saturne.
Est-ce que quelqu'un a une proposition un poil plus pragmatique
un poil, hein.
Mais vraiment un poil pour, encore une fois, utiliser la technologie de manière.
Bah pour moi, consommer, hein, en fait.
À part moins ou mieux consommer, ou effectivement se donner, comme tu disais, il y a aussi se donner des limitations. On en parlait plutôt avec la chronique de 2016 que disait Fibre. On n'est pas habitué aujourd'hui dans le numérique à être limité, ouais. Parce que le mot d'ordre du numérique, c'est illimité, illimité en espace, illimité en usage, illimité en trafic, illimité en nombre de mails. On n'a jamais eu de limite de site ou de temps depuis 15 ans.
Moi, j'ai une question. Est-ce que, c'est quelque chose que je ne fais pas. Est-ce que vous êtes capable d'effacer les mails une fois que vous les avez traités? C'est quelque chose que je fais pas, mais il y a des gens qui le font. Et Orange a fait une campagne de com en disant il faudrait effacer vos mails.
Ouais.
Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, un peu comme les gens comme toi, l'âme, est-ce qu'à un moment, il faut pas... Il faut pas effacer les données que nous avons stockées maladivement
et que nous n'avons d'ores et déjà plus le temps de consulter.
Non. Question suivante.
Non, je déconne. Il faudrait, mais c'est un temps fou quand même.
Mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a vraiment, je pense, juste, je rajoute ça, il y a vraiment une fonctionnalité à intégrer, à faire intégrer en tout cas dans les systèmes d'exploitation modernes, qui serait justement de dire, Windows le fait par exemple sur certains trucs en disant ça fait longtemps que vous n'avez pas lancé ce jeu, parce que vous voulez le shooter, ça devrait être généralisé et transverse sur tous les services qu'on utilise, quoi.
Ouais, c'est vrai. Rebonsoir, monsieur.
Rebonsoir. Oui, en fait, je suis assez étonné parce que sur la première chronique, on est parti d'un constat qui est arrivé sur une taxe. On a eu d'autres chroniques qui ont défilé. Au moment où on est arrivé aussi une proposition d'avoir des appareils qui gèrent pour nous, en fait, notre bonne conscience quand on quitte la maison.
Ouais.
Pour arriver à une conclusion sur le fait que, éventuellement, le numérique n'apporte pas de réponse. En fait, peut-être que le problème vient simplement de l'éducation. En termes d'éducation, d'apprentissage et de respect en fait de l'environnement tel qu'on nous apprend à être, on va prendre des guillemets avec ça, mais un bon citoyen, etc. Est-ce que en fait la non-réponse à la question posée ne viendrait pas juste éventuellement d'utiliser le numérique pour créer des plateformes d'éducation dédiées sous n'importe quel format.
Très bonne observation. On revient au numérique et on revient au problème d'éducation, donc en amont encore une fois.
Exactement.
Et sur le long terme.
Parce que visiblement, le numérique ne réglera jamais ce problème. Et c'est un problème purement humain au final.
Alors, repiquons sur cette question et pour la mettre en contexte avec les propositions de Mélissa au début de l'émission et aussi celle de Sylvain en fin d'émission, on parle beaucoup quand même pas de punition, mais de d'obligation. Donc, à un moment, des appareils qui sont obligés à s'éteindre, quelque chose qui est fini, quelque chose, en fait, qui n'est pas du tout dans l'éducation, mais d'une certaine manière dans la répression. Des chargeurs qui, à un moment, se mettent à sonner quand ils arrivent à 100% pour qu'on comprenne, etc., etc. Est-ce qu'à un moment, on pourrait mettre en place, et encore une fois, de manière efficace, et pas utopique, à travers une application, à travers des cours à l'école, à travers des notifications qui sont disséminées à droite à gauche, une éducation par le numérique? Comment on pourrait, les amis, c'est le moment de brainstormer sans s'y être préparé, on pourrait mettre en place une éducation par le numérique au geste vert?
Un truc qui fonctionne pour faire rentrer les trucs dans les têtes rapidement, à part les armes à feu, c'est les taxes.
Non, mais donc là, alors.
Les guides et les trucs, il y en a plein, quoi.
Voilà, si on en vient aux taxes ou au système de, pas de répression, mais d'alerte et de limitation dont tu as parlé, par exemple, Mélissa ou Sylvain, là, on parle vraiment d'éducation. Donc je sais que tu n'y crois pas, Dazé, que tu ne crois qu'à la répression, mais imaginons
qu'on ira plus vite à acheter des iPhones.
D'éduquer les personnes.
Des youtubeurs écolos.
On ira plus vite vers la catastrophe.
Des youtubeurs écologiques.
On ira en youtubeurs écologistes. Donc c'est-à-dire que tu as des vrais influenceurs avec le langage qui marche aujourd'hui chez les jeunes qui t'aideraient comme tu as des youtubeurs beauté ou des choses comme ça. Voilà.
Très bien. Qui ont du coup un petit bilan carbone.
Ça existe.
On a vu qu'il y avait des youtubeurs écologistes, mais ils ne sont pas très populaires.
Bah du coup, ils sont pas hébergés sur YouTube.
Il y a Rémi qui a un truc.
Il y a Rémi, oui, il m'a expliqué. Il a un truc. Il en connaît un. C'est lui.
Parfait.
On va lui redonner la parole.
Rebonsoir.
Rebonsoir. Du coup, c'était quoi la question?
Quel est le nom de ta chaîne pour ça?
C'est mon nom, c'est Nicolas Mérieux.
Non, la question qu'on se posait par rapport à la dernière chronique de Sylvain et la réaction dans le public, c'est justement, on parle beaucoup aujourd'hui d'apprendre à être plus responsable sur nos éco-gestes technologiques, mais on le fait surtout par l'oppression, la punition ou par des taxes. Comment on fait pour éduquer les gens à devenir responsables, à mieux utiliser, à être plus propre, etc., mais sans passer par des mécaniques, on va dire, obligatoires ou forcées?
Si j'avais la solution, je créerais une dictature écolo demain.
je vous compte, Daz, c'est très, très ambiance dictature aussi.
Mais pour ma part, effectivement, le jeu fonctionne très bien. Moi, par exemple, j'utilise l'humour, j'essaie d'écrire des sketchs sur des grosses problématiques.
D'accord.
Certaines dont vous avez traité aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir.
Ouais.
Si j'ai pas de solution toute faite, tu vois, sinon vraiment, on changerait le monde demain, tu vois. Moi, en tout cas, mon arme, c'est faire des vidéos humoristiques de sensibilisation pour que les gens aient envie de changer les choses. Pour l'instant, j'ai fait que des vidéos où je traitais des problèmes.
Oui.
Et à partir de 2019, je ferai que des vidéos qui parlent des solutions.
Est-ce qu'on peut en profiter pour faire sa publicité?
C'est Nicolas Mérieux, c'est le nom de ma chaîne, tout ça.
Et est-ce que tu sens que ça marche et que tu arrives à toucher des gens qui ne sont pas concernés d'habitude?
Alors,
ou qui ne se sentent pas concernés?
Sans être prétentieux, énormément.
Ok,
c'est bien.
Ouais. C'est cool.
En tout cas, je sais que sur le niveau de tout ce qui est végétarisme, je fais une vidéo en expliquant c'était ce qui était plus polluant, enfin les deux plus gros gestes écolo qu'on puisse faire sur notre planète en tant qu'individu européen, c'est arrêter de manger de la viande et arrêter de prendre l'avion. Donc du coup, quand je reçois des centaines de mails qui me disent qu'ils sont devenus végétariens grâce à moi, je suis super content de ça.
Des centaines?
Ouais.
Félicitations.
Et puis après, je fais des conférences aussi, Donc j'ai pas étalé ma vie, mais oui, j'ai eu beaucoup de retours positifs.
Non, mais c'est important d'avoir votre cas parce que ça nous fait avancer.
Ça fonctionne. Mais après, effectivement, comme tu dis, bon, moi, il y a 200 000 personnes qui me suivent. C'est pas avec 200 000 personnes qu'on va changer la France ou l'Europe.
C'est déjà énorme, 200 000 personnes.
Ouais, mais il faut beaucoup plus que ça. Il faut être beaucoup plus influent que ça.
Il y a justement sur YouTube un cercle comme ça de youtubeurs.
Ouais, on est pas mal. Ouais. On se rejoint. Il y a d'ailleurs une vidéo qui va sortir là lundi, qui je pense beaucoup faire parler d'elle. On a écrit sur le rapport du GIEC. Le nouveau rapport, il sort lundi. Donc, et on a créé un site internet qui s'appelle, enfin, il est pas encore sorti, mais qui s'appelle Il n'est pas trop tard. On va expliquer aux gens tout ce qu'ils peuvent faire pour changer leur quotidien à leur échelle, en tout cas.
Tu crois vraiment qu'il n'est pas trop tard?
Oh, c'est beau.
Bah, pas trop tard. Pourquoi? Pour se prendre la claque? Si, on va se la prendre. On va se prendre une énorme claque. C'est pour ça que j'ai réagi à ce que tu dis quand tu dis toi t'es dans le monde de demain. Moi, je suis dans le monde d'après-demain. Celle qui va faire mal. Et en fait, le terme, enfin, ce qu'on essaie de chercher aujourd'hui, c'est soit je te mets une claque d'ici avec de l'élan, une patate de forain, soit je te la mets de là. Tu vas quand même te la prendre, mais je te la mets de là. C'est à choisir, en fait. Mal.
Très bien. Bah, c'est cool, en tout cas.
C'est très cool. Avec une claque, on va y arriver.
C'est pas tous les jours qu'on met une patate à Daz. Après, je dis ça, je dis rien.
C'est même assez rare.
Après, c'est lui qui va te masser. Bref. Bon. En tout cas, vraie piste, du coup. Parce qu'effectivement, YouTube, encore une fois, on essaie de penser à des solutions très pragmatiques et pas trop utopistes. YouTube cartonne, encore une fois, c'est l'un des premiers médias aujourd'hui, sur divers sujets. S'il y a des YouTubeurs écolos et une YouTubosphère écolo, bon, sur ça YouTube, bouge du data, mais c'est voilà. Déjà ça. Parce qu'effectivement, je pense que sur PeerTube, t'auras un peu moins d'abonnés.
Mais la manière la plus efficace, ce serait que Monsieur Dream devienne végétarien, tu vois.
Ah ouais.
C'est ça. C'est comme ce que disait Fibre. Ça sert à rien de créer des jeux ou de créer du divertissement pour être écolo. Il faut prendre ce qui marche actuellement et le transformer. Et amener des Pokémon rares.
Donc, en vrai, il y a
normal,
une mode.
Squeezie, Cyprien.
Parce que moi, il y a une mode du végétarisme. C'est qui est une mode positive.
C'est une mode, film.
C'est
une mode de vie, là, quand même. On est plus.
Non, dans le cercle privé, je serais d'accord avec toi, mais là, je vais te laisser des.
Non, mais on se comprend entre 400 4 os.
Oui, bien sûr, vas-y.
C'est, là, c'est pas parce qu'on se comprend qu'on s'approuve, hein, Fibre. Hein,
moi, je veux dire quelque chose. Une fois de plus, je suis écoloradin. Je suis ravi.
Écoloradin.
Je suis ravi du végétarisme parce que la viande, ça coûte super cher. Non, mais c'est vrai.
Donc t'es flexivore, t'en manges moins parce que ça coûte cher.
Ouais, c'est ça.
J'attends tellement fort que tu ouvres ta chaîne YouTube avec tous les bad buzz que tu vas te prendre. Écoloradin, je pense que déjà en termes de hashtag tu vas aller.
Mais un écoloradin vaut mieux qu'un mec, un non-écolo. Voilà. Je suis à mi-chemin.
C'est vrai.
Et oui.
C'est vrai.
Il faut encourager toutes les initiatives fibres. Je te supporte.
Je te mettrai des pouces bleus sur tes vidéos si tu sors des vidéos écoloradin. Est-ce qu'on a une dernière suggestion, quelques suggestions encore? Oui, ici.
Oui, donc c'était justement pour agir au sujet des youtubeurs.
Oui.
C'est juste histoire de faire une pub parce que la chaîne dont je vais parler, elle est vraiment axée écolo. Et c'est.
Mais profitons-en.
Et c'est voilà, et c'est des gens qui méritent beaucoup plus d'abonnés que je pense. C'est le professeur Feuillage qui a fait d'ailleurs une vidéo avec Surfrider. Et voilà, c'est tout. Ils sont vraiment très axés écolo. Ils font beaucoup de sujets. Ils font aussi beaucoup de conférences. Ils bougent beaucoup dans des festivals, etc., pour parler écologie.
Voilà. Professeur Feuillage, très bien. C'est pas le nom d'un personnage de quelque chose, ça?
Grand-mère Feuillage dans le Roi Lion. Non, dans Pocahontas.
Ah, bien. Merci.
Quelle culture.
Eh oui. Eh oui.
Ça vient de plus de 1500 kilomètres, ça. Ah.
Produit
la loutre et le héron sont tes amis.
Je t'imagine sauter dans une cascade à la fin, Fibre, de manière très gracieuse, comme Pocahontas. Très bien. Et on finira juste. Tu avais tenté un réseau écolo, ça marche pas? Ça marcherait vraiment pas? Oh, non, mais
c'était pour les amoureux de la nature. Et donc aimer la nature et être écolo, c'est quand même deux démarches différentes. Et
c'est deux démarches différentes.
Bah parce que tu peux prendre en photo des tulipes et manger des steaks de 2 kilos.
Tu peux adorer chasser le sanglier.
Voilà, oui. C'est ça.
et être le premier écolo de France.
Mais ça s'appelle Inaturalia, c'est une sorte d'Instagram pour faune et flore.
Il me semble que ça a été créé lors d'un hackathon que j'ai animé, ce truc. Figure-toi.
Ouais.
Le mec, humble brag.
Ben c'est très propre. C'est très propre.
Comme quoi.
Est-ce qu'on prend des engagements avant de clore
C'est marrant, j'allais vous poser la question. Avec le public, évidemment.
Tout à fait.
Mais je pense que le public, ils sont vachement plus en avance que nous sur les engagements écolos. Enfin, que certains d'entre nous, dont je tairai le nom. Alors, engagement, du coup, à partir d'aujourd'hui.
À acheter des iPhones. Ok. Je me lance.
T'as vu, il a dit encore une fois que c'était le problème, c'est la viande et les voitures. Donc t'es dans les clous, Daz. Hein. Enfin, non, tu manges la viande, mais t'as pas de voiture.
Non,
c'est les avions.
Ça coûte cher.
Très bien. Quels engagements on prend chacun? C'est parti, on fait un petit tour de table.
Éco-geste numérique ou éco-geste ou quoi?
Éco-geste numérique. Okay. Éco-geste numérique.
Ah. Mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'on hésite.
Attends, on prend les éco-gestes de.
Dans tout ce que tu veux.
De Fidel Castro. Dans tout ce qu'on a entendu durant cette émission, maintenant, bon, là, on finit. Fibre.
Alors, je suis les conseils de Nicolas Mérieux.
Oui.
Je vais décider de. Je vais essayer, je m'engage à ne pas prendre l'avion pendant 300 jours.
C'est pas numérique.
Ouais, mais c'est numérique, quoi.
Oui.
Non, mais il n'y a rien, on ne sait pas ce que c'est. Tu suis...
oh, le mec.
J'en ai listé 12 là.
Ça, il a abandonné l'écologie en 2 secondes.
T'as vu comment il a eu une.
Non, c'est bon, ça m'a saoulé.
Il s'est mis directement.
Tu pourrais débrancher tous tes devices.
Je passe toutes mes prises en mode extinction
automatique.
En mode smart. Je vais essayer de m'orienter vers ça en tout cas. Investir dans de la domotique et des lampes, des multiprises qu'on peut avoir, des routeurs qui consomment moins et qui consomment de manière smart. Et je crois que les thermostats, ça marche bien aussi, je crois. Aussi.
Ouais, Nest et compagnie, là.
Ouais, très bien. Je m'engage à ça. On en reparlera dans une prochaine émission écolo.
Moi, je vais me désabonner de Netflix.
Ouais.
C'est eux.
Ouais, je vais télécharger tous mes films. C'est pas...
J'ai passé par BitTorrent.
C'est parce que ma femme m'a dit la semaine dernière, il y a plus rien, on a tout vu. Viens, on essaye Hulu.
Comment tu fais pour tout voir sur Netflix? C'est impossible. C'est
non,
possible.
Mais il y a plus de trucs bien. Okay. Et d'ailleurs, Netflix, on l'a évoqué, mais là où Apple et Google, par exemple, prennent des initiatives pour alimenter leurs data centers avec des énergies renouvelables, Netflix, ils sont full énergie fossile.
Paf, ah ouais.
Ils sont très mal notés.
Sont très mal notés sur le rapport Greenpeace.
Ah, je savais pas. Mm-mm. À savoir par rapport aux concurrents. Mélissa, Daz.
Je sais pas. Moi, je fais tout ce que j'ai dit.
Tu fais tout ce que t'as dit, Mélissa.
C'est impossible.
Même
je pense,
les mails et tout.
Ouais. Franchement, les mails maintenant. Ça m'angoisse. Quand j'ai préparé ce truc, je me suis dit, mais plus jamais j'envoie des mails.
J'avoue qu'aujourd'hui, quand tu vois tes archives de mails et que t'as des gigas de mails avec effectivement les fameux PDF ou les fichiers Word, que tu sais même plus ce que c'est, qui sont stockés non-stop.
Ok. J'en ai un.
Ah. Fibre.
Je m'engage à avoir un seul jeu installé sur ma console et un seul jeu installé sur mon PC.
Ça sera Red Dead Redemption.
Ouais, parce que voilà. Tu sais que Red Dead Redemption arrive en octobre.
Non, mais ça va être. Ouais, mais là, j'ai Shadow of the Tomb Raider, je vais l'effacer, je vais mettre Assassin's Creed Odyssey et ouais. Je l'effacerai et je mettrai. Je sais pas si c'est vraiment un éco-geste, mais
non,
on va essayer.
En fait, absolument pas, puisque.
Si, mais si.
Bah, le disque dur, il est chez toi.
On encourage tous les pas, même les petits pas, on les encourage. Allez, on est positif.
Non, mais c'est génial.
Mais non, Das, parce que tout comme les notifications des applications fantômes consomment de l'énergie, quand t'as Steam, moi des fois Steam, j'ai peut-être 200 jeux sur Steam, je joue à 3 jeux, j'en ai 170 qui se mettent à jour pour rien en fait.
Voilà.
Au lieu de désinstaller.
Non, mais alors dans ce cas-là, tu désactives les mises à jour automatiques déjà, ça c'est un premier pas.
Aussi.
Parce qu'après le truc il est sur ton disque dur que tu t'en sers ou pas.
Oui, tout à fait. Mais au moins j'aurais pas aussi téléchargé 20 millions de jeux dans le vide.
Ah oui, d'accord. Ouais, ça. Mais en fait, il faudrait plutôt catalogue. S'engager à finir tous les jeux de la bibliothèque avant d'en racheter un.
Voilà, je vais faire ça.
Ah ouais, ok, bah ouais, il n'y aura pas de Red Dead 2 alors mon gars, parce que,
pourquoi
tu vas jamais parce que ça sort fin octobre et à mon avis t'auras pas fini.
Mais c'est pas grave, je peux attendre. Je fais tous les jeux à 100% et puis voilà.
Très bien.
Okay. Il va platiner ces jeux.
Du coup, Mélissa et Daz n'avaient toujours pas donné d'engagement.
Si, moi j'ai dit tout.
Ah,
voilà,
tout
super.
Tous les 7 éco-gestes de la première chronique.
Ouais. Tout. Tu vas être locatec. Ah non, de la première chronique.
Donc effacer ses mails.
Ne pas envoyer des gros trucs.
Ne pas mettre tout le monde en copie, moi ça tu fais déjà.
Moins de réseaux sociaux.
Grande cause.
Moins de réseaux sociaux.
Je te rappelle que t'es la personne ici qui a le plus de followers sur Twitter, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu tweets, c'est une catastrophe écologique. Parce que tu es affiché par.
Je tweete pas beaucoup, franchement, je tweete beaucoup moins que Daz, par exemple.
Ouais, mais moi j'ai 3 followers.
Non, pas tant que ça.
Et en plus, c'est ma famille.
C'est faux.
Moi, en fait, je suis.
Pour finir, Daz.
Alors, excuse-moi de le dire et de le rappeler, je suis le seul qui prend des décisions et qui s'engage réellement et qui le fait.
Il a un clavier Beppo.
Il a un clavier Beppo et j'ai abandonné le cloud de Google sauf pour les documents avec vous, bande de Mongoliens. Parce que,
voilà. Donc t'as pas abandonné le cloud de Google.
Parce que je peux pas à cause de vous. Mais sinon,
j'ai vraiment un Beppo, ok.
Et moi j'ai vraiment un cloud perso, ok.
Ouais.
Je pense que je vais acheter des iPhones.
Ouais. Des iPhones.
Et sinon une vraie mesure.
Je pense que là, j'ai dit à plusieurs reprises que j'étais farouchement contre l'intelligence artificielle, donc quand elle est américaine.
Oui.
Siri, c'est pas grave parce qu'il est débile, mais oui. Alexa et Google, c'est monstrueux. Moi, je pense vraiment, vraiment, vraiment que je vais mettre en place un truc de domotique à base de Raspberry Pi et de d'IA ouverte.
Tout en local.
Et qui tourne en local, ouais. Parce D'accord. que j'en ai rien à foutre que ça parte sur des serveurs à l'autre bout de la Terre.
Donc sans IA, donc il y a un truc qui optimise ta consommation
d'électricité
chez toi.
Avec une IA, mais...
Tout en local, sans passer par des serveurs.
Ouais, voilà.
Très bien.
Si je pouvais parier sur le fait que tu n'en tiendras pas ça.
Bah, j'ai déjà 2 Raspberry Pi à la maison.
Ouais, mais...
Bon,
parce que, et en même temps, du coup, je vais dans le sens de ma chronique, c'est-à-dire que je m'équipe comme un enculé. Et vous allez rien faire.
On finit par une petite note de cynisme parce que c'est comme ça qu'on aime finir les émissions. Merci beaucoup, en tout cas, chers chroniqueurs, Sylvain, Daz, Mélissa, Fibre. Merci beaucoup, Sam, de nous avoir aidés. Merci à vous, chers public, d'avoir été là ce soir. Extrêmement actif. Merci à la Sam Fryder Foundation, merci à Rémi, à tous tes collègues, à toute ton équipe, même ceux qui ne tirent pas la chasse d'eau. On les remercie aussi, car c'est très écolo.
On a les noms. Alors,
merci beaucoup à Sam Fryder Foundation de nous avoir accueillis ici à Biarritz, dans ses locaux.
Studio 404, l'émission de société numérique.
C'est la fin de cette émission sur 404 spéciale écologie qui, je pense, en appelle une deuxième avec où est-ce que vous en êtes, hein,
ouais.
Un an plus tard. Ou
en 2050.
En 2050, quand on aura tous pris
mort.
Une patate de foin dans la gueule de la part
avec
de Nicolas. De Nicolas.
Avec élan.
Faites la queue les uns après les autres, ne vous bousculez pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Évidemment, on se retrouve sur le forum pour en discuter de chacun de vos sujets. Je regarde Fibre Optique dans les yeux. Oui, donnez au Patreon car c'est important, car le bonheur de cet homme dépend de votre générosité.
Et les
sûr.
Émissions futures, hein, si on est là, c'est aussi parce que.
Exactement. En tout cas, on vous embrasse bien fort. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission. Et pour les gens qui sont là sur place, c'est parti. On peut boire des verres et discuter. Allez, ciao à tous, bye bye.
Bravo, merci.
Burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.